Europe 1,
18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver pour votre grand journal du soir jusqu'à 20h. À la une de l'actualité, des tests gratuits pour 1 300 000 personnes en Ile-de-France. Campagne de dépistage anti-Covid lancée par le ministère de la Santé pour identifier les clusters dormants. On en parle dans votre journal, Sébastien Krebs. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
À 18h20, 6 milliards d'euros promis par le gouvernement pour les soignants du public et du privé. Comment doit être répartie cette enveloppe? Lamine Garbi est mon invité, président de la Fédération de l'hospitalisation privée. C'est dans 20 minutes sur Europe 1. 18h30, les grandes voix avec ce soir Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et cette nouvelle affaire des écoutes autour de Nicolas Sarkozy et des avocats surveillés. Le PNF, le parquet national financier, à nouveau sur la sellette. 19h20, votre semaine spéciale municipale qui se poursuit. Je reçois ce soir un représentant du parti du gouvernement, François Patria, président du groupe LAREM au Sénat. Et puis à 19h30, coup d'œil sur ces salariés qui ne veulent plus retourner au bureau. Ah oui, c'est un phénomène qui se répand depuis le déconfinement. Stress, perte de motivation, angoisse de la reprise physique du travail. Vous êtes concerné? Cela vous parle? Eh bien, contactez-nous au 3921, hashtag Europe 1. Vous connaissez le programme du jour. On écoute ensemble Le Monde Changer. Et c'est jusqu'à 20h sur Europe 1.
Il est 18h. Vous écoutez Europe 1.
On est sur un dispositif avec la possibilité d'aller se faire tester en laboratoire pour avoir un dépistage efficace pour toute la population.
À la recherche des clusters dormants, le gouvernement élargit sa politique de dépistage. Vous recevrez peut-être chez vous une invitation à aller vous faire tester.
30 communes d'Île-de-France vont expérimenter justement cette nouvelle stratégie.
Quel salaire pour les soignants? 6 milliards d'euros à partager entre public, EHPAD et hôpitaux privés. Les personnels attendent toujours les détails.
La colère des avocats, plusieurs ténors du baron ont vu leur relevé téléphonique épluché littéralement par la justice dans une enquête visant Nicolas Sarkozy alias Paul Bismuth, vous vous souvenez.
C'est scandaleux, ces gens-là s'autorisent tout et moi je dis qu'il est grand temps maintenant de les arrêter.
Dans ce journal aussi, le laboratoire Merck condamné pour faute pour avoir changé la formule du Lévothyrox.
Et Google qui ne conservera plus l'historique de nos recherches au-delà de 18 mois. Enfin, grimper 2 étages de la Tour Eiffel par l'escalier et par 35 degrés, ça vous dit? Je vous assure, la récompense vaut la peine.
Voilà, de toute façon, j'avais tout donné. Hein. J'avais plus rien dans le coffre. Regardez les petits jardins partout sur les toits, c'est pas mal. Hein.
Voilà, la dame de fer qui a rouvert aujourd'hui. La bourse de Paris rebondit de 0,97% à 4 918 points.
Et Anissa est avec nous. Bonsoir Anissa, le temps de ce vendredi.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Et bien après une journée de forte chaleur encore aujourd'hui, demain les températures se maintiennent, mais surtout ce qui est à retenir, c'est que les orages envahissent le pays. Toutes les régions ou presque seront touchées. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
C'est un changement très net dans la stratégie de lutte contre l'épidémie en France. De nombreux médecins le réclamaient, demandaient à dépister beaucoup plus largement. Encore ces derniers jours, des millions de tests dorment dans les placards des labos et risquent même de périmer. C'est donc un coup d'accélérateur qui va être donné. Bonsoir Pauline Jacquot.
Bonsoir.
Alors l'idée, c'est d'aller chercher des foyers, des clusters qui seraient dormants, qu'on n'aurait pas encore identifiés.
Oui, on va cibler des zones proches des foyers d'infection connus et les autorités de santé vont inviter tous les habitants à se faire tester. L'objectif, c'est de mettre la main sur les asymptomatiques. Tous ces cas que l'on ne connaît pas, mais qui contaminent d'autres personnes. Eh bien, on veut casser ces chaînes de contagion en incitant tout le monde à pousser la porte d'un laboratoire.
Et ça va commencer d'abord en Ile-de-France ?
Ça va commencer en Ile-de-France, exactement. Expérimentation dans les prochains jours dans une trentaine de communes. 1 300 000 personnes vont recevoir un courrier. Ce sera un bon de l'assurance maladie pour un test gratuit. Une campagne très importante selon Marion Verguelen, directrice de l'Association des maires d'Île-de-France.
On a notamment des populations qui n'ont pas forcément accès très facilement à des soins. Il y a des territoires qui ont très peu de médecins. Donc là, on est sur un dispositif avec la possibilité d'aller se faire tester en laboratoire. Donc c'est important que le sujet financier ne soit pas un frein pour avoir un dépistage efficace pour toute la population.
L'expérience, dit Olivier Véran, pourrait ensuite être étendue à d'autres régions. Pour l'instant, en Ile-de-France, les villes, nous dit-on, sont choisies selon 3 critères, le niveau social, le taux de positivité du virus et la demande en test de la population.
Les précisions de Pauline Jacquot pour Europe 1 et cela au moment où l'OMS se dit inquiète d'un rebond des cas En Europe, les cas de contamination à l'échelle du continent repartent à la hausse pour la première fois depuis plusieurs mois. Inquiétude aussi aux États-Unis où le Texas stoppe son processus de déconfinement. Ce soir, on va y revenir à 19h sur place avec Xavier Yvon.
Aujourd'hui, la pression de l'épidémie s'est bien relâchée sur les soignants et c'est la négociation sur les salaires à l'hôpital qui entre dans le dur.
On connaît maintenant le montant de l'enveloppe prévue par le gouvernement. 6 milliards d'euros pour des hausses de salaires qui doivent s'appliquer à partir du 1er juillet. Une somme qu'il faudra partager entre l'hôpital public, les EHPAD, mais aussi le privé. Alors que restera-t-il sur chaque fiche de paye? Aucun détail n'a encore été donné. Arthur Mbaché, vous êtes à l'hôpital de Strasbourg et ça fait encore beaucoup de points d'interrogation.
Et la question qu'ici à l'hôpital tout le monde se pose, c'est 6 milliards, d'accord, mais pour qui, infirmiers, aides-soignants et les brancardiers comme moi par exemple, se demande Joseph.
J'ai un salaire brut de 1008, mais j'ai derrière déjà 30 ans de service. J'attends les faits réels, parce que pour l'instant, c'est que des annonces. Je suis assez pragmatique, moi j'attends.
Doris a passé un printemps au front en mode chair à canon, dit-elle, elle est infirmière anesthésiste.
Ma toute première réaction, je me dis comment que ça va être distribué, qu'est-ce qu'ils en font. Si c'est pour tout le monde, c'est pas énorme, c'est pas grand-chose. Si c'est que pour les soignants ou si c'est pour tous les hospitaliers, parce qu'on est quand même très nombreux dans la France, c'est 6 milliards.
Jean-Claude Matry dirige la CFTC des hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Alors 6 milliards d'euros c'est bien, mais c'est pas assez. Le soignant, oui, mais un hôpital ne fonctionne jamais sans les autres, qu'ils soient médecins, qu'ils soient infirmiers, qu'ils soient aides-soignants, qu'ils soient ASH, qu'ils soient techniciens, qu'ils soient informaticiens, c'est toute une chaîne qui doit être récompensée, quelle que soit leur, leur profession.
Sans compter l'hypothèse selon laquelle une part du gâteau serait réservée au secteur privé.
Arthur Mbaché, correspondant d'Europe 1 en ligne depuis l'hôpital de Strasbourg.
Et un nouvel appel à la grève est lancé par les soignants pour mardi prochain, le 30 juin. Un mouvement auquel se joindront les médecins qui pointent les très faibles avancées du Ségur de la Santé. On y revient avec mon invité à 18h20, Lamine Garbi, le président de la Fédération de l'hospitalisation privée, justement.
Et puis autre rendez-vous sur Europe 1, le ministre de la Santé, Olivier Véran, répond demain matin à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk dans la matinale de Mathieu Béliard. Nous devons sortir de l'état d'urgence sanitaire le 10 juillet. Mais pour l'instant, ça bloque. Pas d'accord entre députés et sénateurs, et notamment sur la question des restrictions qui pourraient continuer à s'appliquer jusqu'à la fin du mois d'octobre, ce que les sénateurs ont refusé de valider. Du coup, retour à la case départ à l'Assemblée mardi prochain.
Le laboratoire Merck a commis une faute. Voilà en tout cas ce qu'a dit la justice. Une faute en changeant la formule de l'un de ses médicaments, le Lévothyrox.
La cour d'appel de Lyon a donné raison aux patients qui accusent le médicament d'avoir provoqué de multiples effets secondaires. Il se voit reconnaître un préjudice moral et le laboratoire devra leur verser 1000 euros chacun. Écoutez la porte-parole de ces 3300 plaignants, Brigitte Courville.
À soulager. Je ne dirais pas que c'est une grande victoire, mais on était entendus. On n'est pas des malades imaginaires comme on nous l'a fait croire, comme Madame Buzyn, qui était à l'époque ministre de la Santé, souriait vraiment ironiquement devant notre état et ne voulait pas le reconnaître. On n'est pas des malades imaginaires. On a eu des symptômes, on ne savait pas d'où ils provenaient. Et la reconnaissance, c'est énorme. L'argent, que ce soit 10 000 euros, 1 000 euros, 1 euro, c'est être reconnu. Comme victime, on a souffert. On est une victime des lobbies pharmaceutiques. Et là, maintenant, je pense que les gens sont un peu plus portés sur le côté lobby des labos. Bon, il y a Servier qui était le premier, maintenant il y a Merck. Voilà, ça vaut le coup de se battre quand même. Ça vaut le coup de se battre. On n'abandonne pas, on lâche pas, on continue.
Un propos recueilli par Jean-Luc Boujon à Lyon pour Europe 1.
18h07 sur Europe 1, la suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy. Et on en vient maintenant à l'affaire qui secoue aujourd'hui le monde de la justice. Tollé chez les avocats, notamment chez un certain nombre de ténors du barreau, ulcéré de s'être fait espionner par le parquet financier.
Et plus précisément, ce sont les relevés téléphoniques de plusieurs avocats pénalistes qui ont été épluchés par des magistrats du parquet national financier, et cela pour tenter d'identifier une éventuelle taupe qui aurait informé à l'époque un certain Nicolas Sarkozy ou son avocat Thierry Herzog du fait qu'ils étaient sur écoute. Chloé Triomphe, à l'époque, les juges enquêtent sur l'affaire Bettencourt.
Oui, et dans cette affaire, les juges enquêtent sur un possible trafic d'influence de l'ex-chef de l'État qu'ils soupçonnent de vouloir corrompre un haut magistrat en échange d'informations sur l'avancée de cette enquête Bettencourt. Voilà pour le cadre dans lequel ils écoutent donc les conversations téléphoniques de Nicolas Sarkozy et de son avocat qui ont ouvert une ligne sous un autre nom, celui de Paul Bismuth. Or, un certain 26 février 2014, les deux hommes changent radicalement radicalement d'attitude et font preuve au téléphone d'un rétropédalage tel que les enquêteurs et les juges sont persuadés que quelqu'un les a alertés qu'ils étaient sur écoute. Alors d'où vient la fuite? Du parquet, d'un autre avocat? C'est dans ce but que le parquet national financier ouvre très discrètement une enquête et vérifie les appels entrants de ses propres magistrats et surtout demande les factures détaillées de plusieurs grands cabinets d'avocats, dont celui de Maître Dupont-Boretti.
Mais ce sont des méthodes barbouzardes qui sont absolument indignes. Moi, je dénonce depuis quelques années une vraie dérive. Il y a quelques juges, je dis bien quelques juges, qui s'affranchissent de toutes les règles. C'est scandaleux, ces gens-là s'autorisent tout. Et moi, je dis qu'il est grand temps maintenant de les arrêter. Je vais la déposer, cette plainte. Je ne sais pas si elle aboutira. Je vais la déposer pour une atteinte à l'intimité de ma vie privée. Je vais la déposer pour une violation de mes correspondances et je vais la déposer pour une violation de mon secret professionnel. Moi, je suis scandalisé.
Une affaire dans l'affaire qui pourrait inciter les avocats de la défense de Nicolas Sarkozy à demander le report du procès prévu en novembre prochain.
Les précisions de Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Et Nicolas Sarkozy a réagi aujourd'hui via un message sur Twitter. Il demande à ce que toute la vérité soit rétablie sur les circonstances qui ont permis, je cite, « cette invraisemblable accumulation de manquements et de dysfonctionnements ». Voilà ce qu'écrit l'ancien président.
Et on va y revenir avec les grandes voix à 18h30 parce qu'après les révélations d'Éliane Houlette la semaine dernière sur les pressions lors de l'enquête Fillon, c'est au tour donc du parquet de faire l'objet de révélations pour le moins embarrassantes.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
À suivre dans cette édition de 18h, Google sait-il tout de nous? Le géant américain décide de s'engager à supprimer toutes nos données au bout d'8 mois.
Et puis on vous emmène à la Tour Eiffel, mais attention, par l'escalier et avec un masque par 35 degrés. Courage.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Cela nous est arrivé à tous, de tomber sur une publicité ciblant exactement la dernière recherche qu'on a fait sur Internet et Google retire tout, retient tout.
Jusque-là, il retenait tout, même à vie. Et ce qui va changer aujourd'hui, c'est que le géant américain va effacer toutes nos données personnelles, toutes les traces que nous laissons automatiquement au bout de 18 mois, un an et demi. Clément Le Saffre, concrètement, qu'est-ce que ça va changer dans notre quotidien pour nous ?
Eh bien, ça va nous simplifier la vie et en quelque sorte, ça va nous redonner un peu de pouvoir à nous, internautes. Il faut bien comprendre que Google suit à la trace notre activité sur Internet. Il peut dire où nous sommes allés grâce à Google Maps, il a la liste des vidéos que l'on a regardées sur YouTube, il connaît notre historique de navigation si on utilise Google Chrome et évidemment, il sait ce qu'on a cherché sur son moteur de recherche. Jusqu'à présent, par défaut, ces données n'étaient jamais supprimées, sauf action de notre part, sauf qu'il faut être honnête, beaucoup de gens ne sont pas au courant que c'est possible ou ne savent pas comment le faire. Il faut aller dans les paramètres des sites ou des applications, choisir sa préférence entre effacement tous les 3 mois ou tous les 18 mois. Faute de choix, eh bien Google les gardait à vie. Et bien désormais, nos données seront effacées par défaut au bout de 18 mois. Pendant ce délai, Google peut quand même les utiliser selon son bon vouloir. C'est une manne financière. Ces données, elles sont revendues aux marques pour faire de la publicité et elles rapportent des dizaines de milliards de dollars à Google chaque année. Mais cette utilisation, justement, très débridée, était de moins en moins acceptée. Aux États-Unis et en Europe, Google était sous pression depuis quelques temps. Dernier exemple en date, en France, poursuivi par la CNIL, Google va devoir payer une amende de 50 millions d'euros pour ne pas justement avoir suffisamment bien informé les utilisateurs sur l'utilisation qui est faite de leurs données.
Voilà, comme quoi frapper au portefeuille, ouais, ça marche.
Ça fait bouger les choses.
Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1.
Le chômage en France a un niveau très élevé. Les chiffres de Pôle emploi publiés aujourd'hui pour le mois de mai indiquent une baisse, mais attention, une baisse en trompe-l'œil en fait.
Ouais, moins 3% pour les chômeurs qui n'exercent aucune activité, mais cela s'explique surtout par le retour en nombre vers une activité qui reste partielle. En fait, au total, on compte plus de 6 millions de chômeurs, un plus haut historique, et le deuxième semestre s'annonce très dur sur le front de l'emploi.
Ils ont eu la Tour Eiffel pour eux, rien que pour eux, sans la foule des touristes et sans la file d'attente. Le rêve, la Dame de Fer a rouvert aujourd'hui même.
Oui, avec un nombre de visiteurs limité, mais attention, la vue se mérite. Oui. Sans ascenseur, les deux premiers étages, surtout par 35 degrés aujourd'hui, et qui plus est avec masque obligatoire. Reportage à l'assaut des escaliers, Marion Gauthier.
Encore des escaliers à monter.
Plus que quelques marches et Léo lève le nez.
C'était un peu dur. Quand on était au soleil en bas, on transpirait.
Pour eux, c'est plus simple parce que le masque pour monter les escaliers, sorti de confinement, c'est compliqué.
Mais la vue est d'autant plus belle et le père de famille a attendu cette date du 25 juin.
Pour marquer le coup, quoi. C'est comme le symbole de Paris, le redémarrage de la France. Du confinement, la fin du Covid, pour eux, c'était assez marquant. Donc le fait que de sortir de tout ça, de redémarrer la vie, c'est important.
Ce redémarrage sera progressif. Pour l'instant, l'ascension s'arrête au deuxième étage, mais c'est bien assez haut pour Pascal.
Voilà, de toute façon, j'avais tout donné. Hein. J'avais plus rien dans le coffre. Regardez les petits jardins partout sur les toits, c'est pas mal. Hein.
Et même le directeur général de la Tour Eiffel, Patrick Branco-Ruivo, ne s'en lasse pas. Il faut dire que la chaleur se fait moins écrasante à mesure que la vue se dégage.
Quand vous êtes à l'intérieur des escaliers, vous voyez aussi la structure de l'intérieur. Et donc, je pense que quand on passe par les escaliers, on connaît mieux la Tour Eiffel.
Après sa fermeture la plus longue en temps de paix, la Dame de Fer devrait accueillir 12 000 visiteurs par jour cet été. C'est moitié moins que les années précédentes.
Marion Gauthier, dans les escaliers surchauffés donc de la Tour Eiffel. Et puis eux ont rejoué au ballon. Aujourd'hui, les joueurs du PSG ont repris l'entraînement sur le terrain, mais en petit groupe, avec en ligne de mire les finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France fin juillet. Et puis du côté de Marseille, à l'OM, la reprise, là, c'est demain.
Voilà, ça c'est encourageant. Le journal de Sébastien Krebs, merci à vous. Vous revenez évidemment à 18h30 avec de nouvelles infos. Et le temps d'Anissa, eh ben, ça y est, hein, les nuages de plus en plus nombreux.
Ouais, effectivement, on va très vite voir la différence hein, demain quand on va lever les yeux vers le ciel, puisque dans la matinée, sur les Hauts-de-France, sur les Ardennes et sur la région parisienne, eh bien là le ciel est assez couvert. Des nuages bien gris, avec dès le début de journée d'ailleurs sur le quart nord-est, eh bien des averses, de la pluie hein, effectivement. Et puis sur le reste du pays, sur toute la moitié ouest du pays, c'est un ciel qui est partagé entre nuages et éclaircies tout au long de la matinée. Alors dans l'après-midi, on change totalement de scénario puisque les orages arrivent, ils envahissent la France et ils vont éclater sur tout le pays sauf au bord de la Méditerranée. Il n'y a finalement qu'au bord de la Grande Bleue que vous aurez un temps sec et ensoleillé demain. Partout ailleurs, des averses, des orages localement violents sur le Pays Basque, le Limousin, l'Auvergne et le Centre-Val de Loire. Demain, les orages seront accompagnés de grêles et de vents forts jusqu'à 100 km/h. Les températures, elles sont encore douces demain matin avec 13 à 21 degrés en moyenne, 13 pour Épinal, 17 à Nantes, Clermont-Ferrand et Belfort, 19 à Biarritz, 21 degrés déjà demain matin dans Paris. Et puis dans l'après-midi, nous aurons une grande amplitude puisque nous aurons 20 à 34 degrés, 20 à 23 au nord-ouest, 25 à 30 sur l'ensemble du pays et jusqu'à 34 dans la moitié sud.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec votre invité dans un instant, Nathalie Lévy.
Et oui, 6 milliards d'euros promis par le gouvernement pour revaloriser les salaires des soignants. Alors oui, mais quid de la répartition entre public et pas de privé? On en parle dans un instant avec mon invité Lamine Garbi, président de la Fédération de l'hospitalisation privée, justement. Il arrive dans ce studio.
Votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy. Et à 18h20, ce soir, votre invité est Lamine Garbi, président de la Fédération de l'hospitalisation privée.
Bonsoir Lamine Garbi.
Bonsoir.
Bienvenue à mon micro sur Europe 1. Une enveloppe de 6 milliards d'euros prévue pour la revalorisation du personnel soignant sur secteur public, mais aussi privé. Voilà le montant de l'enveloppe qu'on connaît désormais. C'est ce que vous attendiez ?
D'abord, je dois dire merci, parce que nous sommes pleinement associés à cette enveloppe. Ce n'était pas forcément une évidence, c'était notre souhait d'équité et de transposition de tout ce qui est fait pour le secteur public, soit fait également pour le secteur privé, comme la prime Covid, où nous avons obtenu l'équivalence. Et c'est important de le rappeler, parce que ce n'était pas forcément acquis dès le départ, et nos infirmières, nos soignants ont été aussi en première ligne sur tous les territoires où il y avait du Covid, on s'en rappelle tous.
Alors, on va y revenir dans un instant, mais c'est vrai, voilà, vous l'avez dit, merci. C'est pas ce qu'on dit du côté de l'hôpital privé, on dit plutôt, mais pourquoi le privé aussi est inclus dans cette enveloppe des 6 milliards? Elle nous revient à nous.
Bon, c'est peut-être la guerre publique-privée qui ressurgit de temps en temps, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat. Moi, je veux rentrer dans le débat de la complémentarité. Mmh. Cette somme-là, c'est pour revaloriser les salaires. Mmh. Les salaires de nos soignants. Ce n'est pas pour la direction, c'est pour les soignants. Et l'ensemble des sommes, et c'est important de le dire, qui vont être allouées. Mmh. Alors, vous parlez de 6 milliards. Mmh. Le ministre parle
on
de 6
sait d'ailleurs,
milliards.
On connaît la répartition pour l'instant, pour le privé,
non,
pour le public?
Pas du tout. Alors, j'espère que ce sera au prorata des masses salariales. Mmh. Ce serait une logique. Nous représentons 130 000 soignants, ce qui n'est pas rien. Le secteur privé a but lucratif. Et l'ensemble du privé, c'est 250 à 300 000 salariés. Donc, on va demander que ce soit réparti selon les enveloppes. Ensuite, 6 milliards, c'est un chiffre qui est important, conséquent. Nous ne savons pas la répartition, vous l'avez souligné, et nous ne savons pas non plus si ce sera maintenant, dans un an, sur un an, pardon, sur deux ans. Voilà, oui. on ne sait pas.
Ça fait encore beaucoup d'inconnus dans l'équation. Ça ne vous fait pas penser à un effet d'annonce, une nouvelle belle promesse, non? Vous dites, on y est là.
J'ai confiance. J'ai confiance parce que tout ce qui a été dit jusqu'à présent, je dirais, sur le cycle de la pandémie, a été tenu. Nous avons été accompagnés, nous avons une compensation de nos charges. charges, c'est important de le dire. Nous avons pu continuer à fonctionner. D'autres secteurs n'ont pas cette chance. Et c'est vrai que la solidarité joue vraiment de manière forte. Donc j'ai confiance. Maintenant, on va être vigilant.
Oui,
on va être vigilant. C'est la base.
Va falloir voir à l'usage, effectivement. Ouais. Mais quand même, parce que même si vous dites on ne va pas entrer dans cette guerre publique-privée, finalement, elle est assez logique. Il y a des choses. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que le déséquilibre, il est là d'emblée entre le public et le privé, à l'avantage d'ailleurs du privé?
Ce que l'on ne sait pas, c'est que, je dirais tristement ou malheureusement, nos infirmières sont moins payées que dans le secteur public. Nous avons des retards sur notre convention collective liés aux baisses de tarifs. Aux baisses de tarifs depuis 7 à 8 ans.
Mais elles récupèrent avec les heures supplémentaires, avec des primes et tout ça. Hein.
Il y a des
Vous
primes.
L'avez dit, et il y a quelques semaines.
Il y a une convention collective qui est quand même plus souple. C'est-à-dire que l'on peut revoir le positionnement sur la grille. Mmh. On peut nommer des cadres de service, des responsables de service. On a plus de souplesse, plus de latitude, effectivement. Mais la convention collective, et c'est quand même notre socle, est inférieure au secteur public. Donc, arrêtons de dire que nous sommes les privilégiés, ou que la détresse de l'hôpital public vient du privé parce que chez nous l'herbe serait plus verte, c'est pas le
alors,
cas du tout.
Admettons, mais alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent les établissements privés n'ont pas été sollicités dans cette crise, dans le Grand Est précisément, là où évidemment la crise a vraiment démarré, bah vous avez pas été sollicité, donc finalement vous n'y avez pas le droit non plus.
C'était au départ, c'était le 15 mars.
Oui.
Bien sûr qu'au 15 mars, il y a eu ce que j'appelle un retard à l'allumage. Mmh. Et il y a eu une semaine de flottement. Après, nous avons été pleinement sollicités. Dans le Grand Est, nous avions 70 lits de réanimation qui étaient vides au départ.
Mais vous-même, M. Garbi, vous aviez dit « faites appel à nous pour inverser la courbe ».
Oui, et ça a été fait dans le Grand Est. Nous sommes passés à 120 lits de réanimation, mais surtout en Ile-de-France. En Ile-de-France, où nous avons pris en charge plus de 900 lits de réanimation dans le privé. Nous avons pris en charge 26% des cas de réanimation en Ile-de-France, 26%, et la PHP, 42%. Mmh. Donc nous sommes complémentaires, et c'est ce que je retiens de cette pandémie, la complémentarité.
Mais si cette répartition, donc on reparle de cette enveloppe de 6 milliards d'euros, se fait plutôt en 60-40, par exemple, 60 pour l'hôpital public, 40 pour le privé, est-ce que c'est de nature à vous contenter?
Dans la mesure où on ne représente pas 40% des soignants, je dirais que nous serions terriblement avantagés. Donc voilà, il faut garder les équilibres, il faut que le nombre de soignants soit pris en compte des deux secteurs et qu'il y ait une transposition à l'identique. C'est un calcul mathématique relativement simple.
Et qui doit être concerné par cette revalorisation? J'entends par là, parmi les soignants, bien sûr, mais il y a le reste des personnels. Un hôpital, il fonctionne pas sans les techniciens, sans les informaticiens, par exemple. Les brancardiers, n'en parlons pas, les aides-soignantes, etc. Qui doit être concerné?
Il faut qu'il y ait une différenciation dans la revalorisation. Il faut qu'en premier lieu, ce soit les infirmières, les aides-soignantes, et puis l'ensemble de la chaîne de soins. L'ensemble de la chaîne de soins, parce qu'effectivement,
donc les techniciens,
le brancardier, le technicien, participe à cette belle chaîne de soins et doit être revalorisé. Ça fait partie de ce qu'on appelle la négociation conventionnelle que nous allons mener. Parce que nous ne dépendons pas de la fonction publique, donc nous demandons un budget qui soit alloué pour le social, et ce budget sera rétrocédé à l'euro près à l'ensemble de nos salariés, et ça fera partie des négociations conventionnelles.
Donc l'ensemble de la chaîne, c'est ce que vous nous dites ce soir sur Europe 1. Est-ce que vous pensez que l'État s'y prend bien quand même en annonçant cette enveloppe globale de 6 milliards d'euros? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire une enveloppe distincte, secteur public, EHPAD, secteur privé, pour mettre tout le monde d'accord et pour dire les choses telles qu'elles sont?
Il faut laisser, je pense, la négociation, le champ conventionnel se faire. On ne peut pas avoir un maillage si fin de l'enveloppe. C'est extrêmement complexe, parce qu'il y a aussi l'aide à domicile, il y a l'hospitalisation en domicile, il y a les soins de suite, la psychiatrie, il y a l'ensemble de la chaîne de soins, et c'est extrêmement compliqué lorsqu'on est ministre de rentrer dans ce détail. Donc notre ministre a fait un geste fort, puissant de 6 milliards à préciser, à compléter, peut-être à augmenter aussi si on s'aperçoit que sur les 2 millions de soignants ça ne suffit pas. Peut-être qu'il faudra avoir plus que cette enveloppe de 6 milliards, je ne le sais pas. Moi je salue deux choses, le montant et le fait que nous soyons inclus dans la négociation.
Si c'est 6 milliards sur 2 ans et non sur 1 an, Lamine Garbi?
Je ne sais pas.
Mais si c'était ça, est-ce que ce serait décent?
Ce serait, à mon avis, un petit peu juste, voire injuste. Donc, je n'ai aucune information. Je me demande juste ce qui va sortir demain des négociations avec le pilier RH du Ségur. Il y en a d'autres.
Alors, à ce stade, globalement, quand même, hein, les réactions sont plutôt favorables. Quand on annonce 6 milliards, même pour le privé, les EHPAD, et donc pour l'ensemble, finalement, des soignants. On va assez vite parce qu'on redoute une deuxième vague, selon vous?
on va très vite parce qu'on a applaudi les soignants. Et je le disais en début de pandémie, c'est bien d'applaudir les soignants à 20h, mais il ne faut pas les oublier. Donc c'est bien qu'on règle les comptes aujourd'hui. Oui, la deuxième vague, je ne sais pas, je ne suis pas épidémiologiste et je ne me hasarderai
bien
à
entendu.
Aucune
mais
aventure.
On en entend parler un peu plus mais, chaque jour, d'où cette enveloppe-là aujourd'hui, selon vous ?
Oui, l'enveloppe est bien, mais surtout, nous allons tirer les enseignements de la crise. Et si, par malheur, il y avait une seconde vague sur le territoire, nous la gérerions, je pense, différemment, avec une sectorisation, je pense, peut-être des territoires, pour lutter là où il y a besoin d'avoir des renforts en matériel et en lits de réanimation.
Merci beaucoup, Lamine Garbi, président de la Fédération d'hospitalisation privée, d'être venu ce soir sur Europe 1.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
Les grandes voix qui vont s'installer en studio, normalement elles sont là déjà à cette heure-là, mais Charles Villeneuve, Catherine et Michel Cotta arrivent évidemment pour revenir notamment sur la colère des avocats. Leurs relevés téléphoniques ont été épluchés par la justice, on vous explique tout.
Europe 1.
18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Et c'est l'heure de votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Nicolas Sarkozy dénonce une accumulation de manquements et de dysfonctionnements après les révélations du journal Le Point. Le parquet national financier a épluché les relevés téléphoniques de plusieurs grands avocats à la recherche d'une taupe dans l'affaire des écoutes qui visait l'ancien président. Le gouvernement va élargir sa politique de dépistage pour tenter d'identifier les clusters dormants, en clair traquer les malades sans symptômes. Une trentaine de communes d'Île-de-France vont expérimenter le dispositif. Des invitations à se faire tester seront envoyées à plus d'un million d'habitants. Poussée alarmante aux États-Unis, 36 000 nouvelles contaminations en 24 heures. L'État du Texas stoppe son déconfinement. On y revient à 19h. La descente aux enfers de la société allemande Wirecard, accusée d'une très vaste fraude à hauteur de 2 milliards d'euros. Ce géant du paiement en ligne, qui compte 6 000 salariés, a déposé le bilan aujourd'hui. Pardon. Le navire Ocean Viking de l'ONG SOS Méditerranée a repris ses opérations. Une cinquantaine de migrants à la dérive sur une embarcation en bois ont été secourus au large de l'île italienne de Lampedusa. Et puis après la Ligue 1, la Grogne gagne la Ligue 2. Le club de foot d'Orléans va saisir à son tour le Conseil d'État pour contester sa relégation à l'échelon inférieur. Le Mans, lui aussi relégué, devrait faire de même.
Merci Sébastien, on vous retrouve à 19h évidemment. Allez boire un petit verre d'eau en attendant parce qu'il fait toujours très chaud. Anissa, mais ça tend quand même à bouger avec des orages demain.
Il faut s'hydrater effectivement. Mais effectivement, vous le disiez, les orages arrivent demain. Ils vont envahir tout le pays avec parfois des orages localement forts. Soyez extrêmement prudents, surtout si vous nous écoutez dans le centre Val-de-Loire, dans le Limousin, en Auvergne et dans le Pays Basque. Demain, les orages seront accompagnés de grêles et de vents fort partout ailleurs. Pas mal d'averses, il n'y a qu'au bord de la Méditerranée qu'il fera beau demain, les températures 20 à 34 degrés dans l'après-midi. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, et vous êtes entourée des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, autour de vous, Catherine Ney, Michel Cotta et Charles Villeneuve.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio avec cette affaire et cette question. Qui a informé Nicolas Sarkozy qu'il était sur écoute ? Le PNF, le parquet national financier, a essayé de répondre à cette question pendant près de 6 ans. Mais pour ce faire, eh bien, il a procédé à des investigations en catimini, hein, clairement, sur des ténors du barreau de Paris. Révélation du Point aujourd'hui, l'hebdomadaire, et colère rouge, c'est peu dire, colère rouge des avocats, dont par exemple Éric Dupond-Moretti, qui évoque un fonctionnement monstrueux. Charles Villeneuve, cette affaire, cette nouvelle affaire dans laquelle le PNF est cité après Éliane Houlette, déjà la semaine dernière, ça commence à faire.
Ça démontre, enfin, moi je trouve que, si vous voulez, la pratique des parquets spécialisés finit par être apparentée à des juridictions d'exception. C'est vrai aussi pour le terrorisme, c'est vrai pour bientôt, à mon avis, il y aura un parquet sur l'environnement, un parquet santé, un parquet... Et ça vit, si vous voulez, sur le plan des magistrats, qu'ils soient du parquet ou qu'ils soient de juges d'instruction, comme des enclaves, complètement, avec des pouvoirs sinon exorbitants, en tout cas une utilisation de ces pouvoirs, de manière là, en l'espèce, si vous voulez, que des avocats espionnés, écoutés, enregistrés, que leurs factures de leur téléphone soit détaillé sans que ne s'exercent les droits de la défense, n'est pas exagéré de dire qu'il s'agit d'un abus de pouvoir. C'est indéniable. Alors maintenant,
c'est légal.
Le président de la République, dans l'affaire, notamment Fillon, a saisi le Conseil supérieur de la magistrature. On sait ce que ça a donné, notamment dans l'affaire d'Outreau. Moi, je ne crois pas du tout, si vous voulez, car je crois qu'il y a un très fort corporatisme des juges. Mais... On l'a vu dans plusieurs matières. Et là aussi, je trouve que ça illustre parfaitement, si vous voulez, ce que le fameux Montesquieu, ouais, dans son Esprit des lois, a dit. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Mais... Et là, c'est l'illustration.
Alors, abuser, dit Charles, mais c'est légal, Michel Cotta ?
Ah, rien, enfin, pas grand-chose qui a été fait là-dedans pourrait être jugé comme légal, notamment toutes les enquêtes sur la responsabilité des uns et des autres. Bon, c'est absolument illégal de faire entendre des gens comme ça, c'est absolument illégal de faire entendre...
Il n'y a pas eu d'écoute.
Les fadettes, ça veut dire, il n'y a pas eu d'écoute, mais ça veut dire que si moi j'ai téléphoné à Jean Veil, ce qui, figurez-vous, m'arrive de temps en temps, oui, eh bien je figure. Bon, oui. C'est quand même.
Oui. Et ça, c'est illégal. La Cour européenne des droits de l'homme le condamne formellement. Non,
le secret professionnel, parce qu'ils enquêtent sur le secret professionnel. Ah, ça, pour le coup, quand on relit ce qui fonde cette institution, ce parquet financier, il n'y a nulle part, ce droit-là. Donc, moi, je suis moins catégorique, ouais, que Charles, c'est-à-dire que je pense quand même qu'il faut des magistrats qui sachent ce que c'est.
Mais
que
il y en a plein, des magistrats. Bon,
voilà. D'accord, mais il faut
une information très, très bien spécialisée.
Il faut une spécialisation, si vous voulez. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas de parquet national financier, d'autant qu'il outrepasse les droits pour lesquels il a été créé.
Mais voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Michel. Il faut
courir derrière les hommes politiques. Il est créé d'abord pour tous les délits financiers.
Il faut des parquetiers, il faut des services de police parfaitement spécialisés, c'est vrai, parce que quand on s'attache...
Ben, ça, il y en a déjà.
Quand on s'attaque à la délinquance financière, c'est un travail assez difficile pour établir les faits, notamment, parce qu'il y a de multiples manières, de toute façon, de les cacher. Mais il n'empêche que petit à petit, ces enclaves, je les ai fréquentées en tant que journaliste pendant près de 15 ans, et c'est vrai que de temps en temps, ils s'affranchissent d'un certain nombre de règles.
Catherine ?
Non, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'alors qu'il y avait une information... judiciaire, ouais, ouverte avec des juges qui enquêtaient pour savoir si oui ou non Nicolas Sarkozy et son avocat avaient essayé de corrompre un magistrat de la Cour de cassation qui s'appelle Azibert, qui est un copain de régiment de Thierry Herzog.
Voyez, ancien avocat général auprès de la Cour de cassation,
bon,
par ailleurs.
Donc, il y avait déjà... Alors, pourquoi est-ce qu'alors qu'une... Déjà, il y a une information judiciaire... Le parquet national financier, c'est Madame Ariane Hampson qui, sur ces faits-là, lance une enquête préliminaire. C'est-à-dire que des policiers vont enquêter pour savoir qui a bien pu avertir Herzog que les tocs avec lesquels il, c'est-à-dire les téléphones, les tocs avec lesquels il conversait avec Nicolas Sarkozy étaient écoutés. Bon, donc pense que ce sont des avocats. Et pourquoi des avocats d'ailleurs ?
On va y revenir hein, parce que l'affaire est compliquée. On va refaire aussi la genèse dans un petit instant avec vous, les grandes voix. On se retrouve dans une petite seconde sur Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy et les grandes voix Catherine et Michel Cotta et Charles Villeneuve.
Voilà, on revient sur cette affaire, le parquet national financier qui a mené des investigations en catimini sur des ténors du barreau en référence à l'affaire Nicolas Sarkozy, l'affaire Bismuth. On va rappeler quand même les faits, ça remonte à 2014 quand la justice enquêtait sur les sources judiciaires de l'ex-président et de son avocat Thierry Herzog. Ce dernier aurait à l'époque obtenu des informations confidentielles sur l'affaire Bettencourt auprès de Gilbert Azibert, ancien avocat général, après la Cour de cassation. Revenir juste sur cet aspect-là, et Nicolas Sarkozy qui a réagi aujourd'hui via un message Twitter, il demande à ce que toute la vérité soit rétablie sur les circonstances qui ont permis cette invraisemblable accumulation de manquements et de dysfonctionnements. Bon, une fois qu'on a dit ça, comment on avance ?
Mais comment on avance? On essaie de synthétiser et se dire, quand vous parlez de l'affaire Bettencourt, c'est justement parce que Nicolas Sarkozy avait été accusé par le juge Gentil, mis en examen, et puis que finalement ça s'est terminé par un non-lieu, et que furieux que le juge Gentil ait utilisé ses agendas de président, alors qu'il n'aurait pas dû, a voulu faire sanctionner les manœuvres du juge Gentil par la Cour criminelle de cassation, alors qu'il sait très bien qu'elle est composée de juges ou d'anciens juges et qu'il se sert tous ses mains dans la main, qu'il n'en obtiendra rien. Et comme il espérait en obtenir quelque chose, je veux dire, M. Azibert, qui appartenait à une autre partie de la Cour de casse et qui n'avait aucun rapport avec la chambre criminelle, a dit, ah ben moi je pourrais peut-être avoir des renseignements, c'est-à-dire téléphoner à l'un ou à l'autre, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas eu de renseignements, et l'autre lui a dit, mais dans la conversation de deux copains, tiens en fait, si vous pouviez m'aider pour aller à Monaco. Et Sarkozy avait dit, mais oui, pourquoi pas, puis finalement ne l'a pas fait. Et je dirais, c'est ça qui devient corruption de fonctionnaire. Je
veux dire, c'est pas... Ce qui est formidable, c'est que ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
Ce que je voudrais voir, c'est que ça n'a rien à voir avec l'affaire, même avec l'affaire Bettencourt, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on a l'impression que n'ayant rien trouvé à propos de cette affaire Bettencourt, et ayant quand même au passage pris les carnets de Nicolas Sarkozy, alors le parquet financier, en quelque sorte, se détourne. Et se met pendant 6 ans, ça a duré 6 ans, à se demander qui est la taupe au sein de son service. Il n'est quand même pas là pour ça, pour le coup, le parquet financier. Qui est la taupe?
Sur la surveillance, elle a duré 15 jours sur les avocats.
On ne sait pas qui est la taupe. Et de toute façon, ne désigner dans les taupes que les avocats. Et en plus, qu'ils perdent 6 ans à ça, quand même.
Six ans à ça, ça n'a pas duré 15 jours, parce qu'il y a eu des relances de l'enquête, c'est reparti, vous voyez. Et alors, celui...
Pas sur les avocats. Hein.
Le procureur adjoint du PNF, qui s'appelle M. Lorgouillou, qui était un ancien procureur de Marseille et qui suspectait Nicolas Sarkozy d'être lié à l'affaire, Air Cocaïne, parce qu'il utilisait des avions qui avaient utilisé ces gens qui faisaient qui transportaient de la cocaïne dans leur avion. Il a essayé de regarder les fadettes de Nicolas Sarkozy. Donc, vous voyez, c'est une espèce de complot contre lui. Il faut absolument trouver les moyens... de le confondre et de
l'acharnement. Ce qui choque, c'est la recherche obsessionnelle, si vous voulez, d'une culpabilité quelconque de Nicolas Sarkozy.
Qu'il n'arrive pas à prouver.
Ce que Gérard Kerbou appelle l'amicale socialo-socialiste, si vous voulez. Voilà.
Oui,
voilà.
Encore que.
Alors, c'est exagéré.
Encore qu'ils font ça systématiquement. Je crois que le mal est plus profond. Non. Il désingue tous les politiques. C'est pas du tout. C'est uniquement, oui, bien sûr, Sarkozy. Mais il désingue tout ce qu'ils peuvent désinguer. Et c'est ça qui est embêtant. Parce que, bon, par exemple, on reprend l'affaire Mélenchon. Bon, c'est vrai qu'il a un peu parlé sous le nez. Des flics qui faisaient une perquisition. Ça ne valait pas là aussi qu'on les menace tous pendant longtemps de représailles, de jugements contre, etc. C'était aussi... Donc il y a une volonté, je trouve, beaucoup plus importante que ça, de se faire les politiques.
Alors, on va revenir aussi dans un petit instant, si vous le voulez bien, sur le cas Raoult, puisque hier, on l'a entendu longuement devant la commission d'enquête. A-t-il fait un show? Ce qu'en est-il sorti avec brio? Vous allez nous dire tout ça dans un petit instant. Les grandes voix jusqu'à 19h sur Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy, entourée des grandes voix, Catherine et Michel Cotta et Charles Villeneuve jusqu'à 19h.
Oh là là, c'était une audition attendue. Évidemment, la commission d'enquête sur le Covid-19 de l'Assemblée a auditionné hier Didier Raoult longuement, le défenseur évidemment du traitement controversé à base d'hydroxychloroquine. Vous l'avez écouté, mesdames, messieurs, Charles Villeneuve, parce que vous avez été sans doute particulièrement attentif, vous êtes beaucoup penché sur l'hydroxychloroquine. Le professeur Raoult,
j'ai été soigné à l'azithromycine, c'est vrai, si vous voulez, l'antibiotique qui va avec la chloroquine, mais j'ai pas été, puisque la chloroquine n'est administrée dans le protocole Raoult que les 2 ou 3 premiers jours.
Mais je sais que vous vous êtes penché, c'est parce qu'on en a souvent parlé, et Michel également. Il a souvent fait le show, Didier Raoult. Là, il a été comment? Vous l'avez trouvé comment? Pas mal de digressions. Est-ce que c'est...
Écoutez, moi, je l'ai trouvé très bon. Voilà. Je dis les choses comme elles sont, parce que je l'ai trouvé très bon du début à la fin. Alors, avec tous ses défauts, mais toutes ses qualités. Alors, tous les défauts, on voit bien maintenant les mensonges ou les approximations sur les enquêtes qu'il a menées, pas menées. On voit bien. N'empêche qu'il a emballé Il a emballé la commission d'enquête. Ben alors,
il a souvent digressé, vous avez remarqué, Michel.
Oui, mais
il est souvent parti, il les a emmenés, en fait.
Parce qu'il répond d'abord aux questions qu'il se pose lui-même. Voilà, je dirais, il maîtrise tellement bien son sujet que les autres sont presque comme des petits garçons devant lui. Ils essaient bien de l'attaquer et tout ça. Mais on sent bien que derrière cet homme qui a ce look toujours... Évidemment, moi j'ai toujours envie de lui couper la barbe de druide, ça fait un peu désordre.
Mais enfin, c'est pas un physique qui s'est fait.
Alors qu'avant il n'était pas comme ça quand il était plus jeune, donc ça doit placer.
Il a toujours été à contre-courant, même adolescent.
Oui, mais tu sens vraiment qu'il y a quand même une personnalité forte. Et moi, ce que je l'ai vu ce matin chez Bourdin, vous voyez, et Bourdin qui essayait de l'attaquer, on vous aime pas et tout ça, mais comment tout d'un coup il a failli se lever et dire écoutez, moi j'ai pas besoin de cette interview. Et alors du coup Bourdin qui a voulu faire ami avec lui, alors à un moment Raoul te dit mais moi vous savez ce que me disent les gens, je m'en fous, d'ailleurs là, une seule chose compte pour moi, c'est l'estime que j'ai de moi-même et l'estime qu'ont mes amis, mes proches pour moi. Et Bourdin qui dit ah mais c'est comme moi, c'est comme moi, et Bourdin qui nous parle de lui. Après il dit mais vous ferez de la politique, et Raoul dit mais jamais je ferai de la politique, et bien voyez encore un point commun avec moi, mais on s'en fout de ce que veut Bourdin et tout ça. Je trouvais que c'était une interview
Catherine égotiste.
Non mais je trouvais ça
je trouve quand même qu'il a...
Il a alterné entre attaques.
Oui, déjà. Non, mais il a posé la question pour moi la plus importante de cette affaire, c'est la question de la politique de la santé, qui depuis 95, de toute façon, on le sait, a l'obsession, là encore, une obsession de réduire les coûts et de contrôler la progression des dépenses de l'assurance maladie. C'est pour moi le plus intéressant dans son propos, si vous voulez, absolument, parce que ça rejoint la longue plainte des médecins que nous avons entendus pendant ces crises sanitaires et des soignants. Et c'est vrai que ça pose un vrai problème, puisque on a mis aux manettes finalement les comptables au détriment des médecins. Alors c'est vrai que laisser la bride sur le cou aux médecins peut aussi poser des problèmes. Mais il n'empêche qu'il y a un équilibre à trouver qui n'a pas encore été trouvé.
Et puis surtout, il a insisté sur la divergence et même l'affrontement de certains services entre eux, de cette volonté de dire non, l'IRSEM, c'est moi la première. Et alors, moi, la question que je me suis posée et que je me pose déjà depuis longtemps à son sujet, c'est pourquoi est-ce que cette affaire a pris un tour politique ? Pourquoi est-ce que d'un seul coup, des gens qui n'étaient pas médecins, Douste Blasi, c'est autre chose, il a toujours soutenu Didier Raoult. Mais par exemple, pourquoi est-ce que d'un seul coup, Bruno Retailleau ou d'autres ont dit... Ah, c'est une affaire, on veut interdire la chloroquine, c'est un complot.
Ou le contraire.
Pourquoi est-ce qu'il y a eu les pros
Michel,
comme les...
Par exemple, même des journalistes qui ont pris position contre Raoult. Alors qu'ils n'ont aucune compétence pour le faire.
Justement, je pensais que dans la politique, c'est devenu, on sentait que, en gros,
on est pro ou anti
Raoult. On était pro parce que c'était le petit contre les grands ou le gilet jaune contre les élites, alors que, comme il l'a dit lui-même souvent, lui, il ne se prend pas du tout pour un gilet jaune. Il dit l'élite, c'est moi aussi, il ne faut pas exagérer. Donc, on a transformé ce combat entre un petit combat
de la
recherche. David contre le Goliath étatique, le petit professeur sans rien, alors que c'est complètement faux, c'est pas du tout sa nature, et que d'ailleurs lui-même a dit, moi j'ai eu la plus grosse subvention qu'on m'ait jamais donnée à mon organisme, moi je fais ce que je veux, moi j'ai toujours eu un contact avec le président de la République.
Est-ce que cette façon de politiser
la chloroquine m'a paru ahurissante pendant tout ce débat.
Mais d'ailleurs, il est allé aussi là-dessus, en quelque sorte, et même sur les proportions que ça avait pris. Il a dit, ça m'a dépassé d'une certaine manière, cette controverse aussi. Il a dit, je suis pas pote avec Bolsonaro, pardonnez-moi.
Ni avec Trump, ni avec le président brésilien. Non, mais il a dit quelque chose, moi, qui m'a frappé. Il dit, dans le fond, quand l'épidémie a commencé, que disait-on en français ? Écoutez, si vous avez des symptômes, prenez du Doliprane et restez chez vous, et puis après, vous viendrez à l'hôpital si vous allez mal. Tandis qu'il dit non. Dès qu'on avait des symptômes, il fallait tout de suite agir et prendre
Il a d'ailleurs les armes.
Et dit que peut-être là, il y a une vraie faute et que des gens sont tombés très malades alors qu'on aurait dû les soigner plus tôt. Mais ça, c'est une vraie question.
Expérimenté quand on appelle le 15, à la voix, on vous dit « Mais vous avez quel âge ?» Et à partir de là, on dit, restez chez vous. Voilà. Et si ça s'aggrave, prenez du paracétamol.
Et attendez d'étouffer.
Et
lui, ce qu'il dit,
c'est que ceci étant, quand même, si on veut être de bonne foi, toutes les études qui ont été faites sur, n'ont pas montré
que ce l'efficacité du médicament
était très efficace, ni à quel moment il l'était, ni à quelle dose.
Et même les risques cardiaques, aussi, ça pouvait engendrer.
Donc quand même, c'est
Mais il ne faut pas le prendre très longtemps. Ça, c'est ce, qui est, ce qu'a montré justement ces études. Il faut le prendre seulement les deux premiers jours dans le protocole avec l'antibiotique, l'azithromycine. Mais cela étant, il ne faut surtout pas prolonger. Enfin, on a tiré des tas de conclusions. Finalement, on ne sait rien. D'ailleurs, on sait qu'on ne sait rien.
Il le dit lui-même sur comment faire des analyses sur un virus qu'on ne connaît pas. Il dit ceux qui font des modèles mathématiques, désignant d'ailleurs un des membres de la commission, sont des fous. C'est vrai que c'est difficile dans une maladie où maintenant on vous dit mais la seule chose qui marche, c'est les anticoagulants.
Oui, mais ce qu'il dit aussi, c'est que des personnes qui ont été infectées, qui ne sont guéris, ne sont finalement jamais guéris au bout de 4 mois, avec des complications, des résurgences, et qu'on ne sait pas les soigner. Et ce qu'on ne sait pas pour l'instant, c'est quel type de personnes, avec quelle pathologie au départ, ou sans pathologie, pourquoi certaines personnes ont cette affection longue durée et d'autres pas. Et bien ça, on ne le sait toujours pas. Voilà.
On ne sait toujours pas s'il y a une immunité non plus. Donc, nous ne savons pas si nous sommes, Charles et moi, immunisés. Puisqu'on dit qu'il n'y a pas de passeport d'immunité, ce qui est quand même extraordinaire.
Moi, je me sens immunisé.
Nous, on voit bien que Charles est complètement immunisé. Je peux vous le dire. Mais si, Michel, bien sûr. Merci à toutes les trois. Merci les grandes voix de ce jeudi. À demain.
Europe 1.
La suivre, Nathalie Lévy. À suivre, c'est Sébastien Krebs, journal de 19h et la réouverture qui se profile pour l'aéroport d'Orly. C'est demain, précisément.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h et la suite du programme, Nathalie. Alors, après 19h, on regarde vers demain. À 19h20, les municipales, J-3. Et je reçois ce soir François Patria, président du groupe La République En Marche au Sénat. Rendez-vous un quotidien jusqu'au second tour. Et puis à 19h30, coup d'œil sur ces salariés qui ne veulent plus retourner au bureau. C'est un phénomène qui se répand depuis le déconfinement. Stress, par exemple, perte de motivation, angoisse de la reprise physique du travail. Vous vous sentez concerné? Alors appelez-nous, témoignez au 3921. Hashtag Europe 1.
Et votre grand journal du soir, c'est avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Ce sera une reprise extrêmement progressive, mais néanmoins une reprise. Donc c'est un moment important, toute la communauté de Paris-Orly.
Armement des toboggans, premier décollage à 6h. Demain matin, l'aéroport d'Orly reprend du service après 3 mois d'arrêt.
Des vols vers l'Europe et aussi l'outre-mer.
Mais pas vers les États-Unis où la situation s'aggrave, poussée alarmante. Le Texas stoppe son déconfinement.
On vous raconte aussi ce soir la descente aux enfers du géant allemand du paiement en ligne Wirecard qui dépose le bilan accusé d'une fraude gigantesque.
Et nous serons au procès d'un djihadiste français soupçonné d'être un proche des terroristes du 13 novembre.
Dans ce journal de 19h, on regarde vers demain. Demain dans le monde, on vote en Russie. Référendum Didier François sur mesure pour Vladimir Poutine.
Et demain en France, les vacances arrivent, les moustiques tigres aussi.
Et du côté du temps, Anissa.
Attention, demain, vigilance orange aux orages parce que toute la France va entendre le tonnerre gronder, presque toute la France, avec même parfois des orages violents accompagnés de grêles et de rafales de vent. Je vous donne tous les détails à la fin du journal. Europe 1. Écoutez le monde changer. Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Un décollage sur la piste 3 à 6h précises. Demain matin, direction Porto. Ce sera le premier vol commercial à décoller depuis l'aéroport d'Orly depuis 3 mois. Le retour des passagers à quelques jours des vacances. Aurélien Fleureau, vous avez suivi les préparatifs. Ça va être un redémarrage en douceur.
Oui, puisque ce sera d'abord au Terminal 3, le plus récent, il avait été inauguré au printemps dernier, que les activités vont d'abord se concentrer. Les pistes ont été minutieusement nettoyées après des semaines avec seulement quelques vols de rapatriement ou de cargo sanitaire. La nature avait quelque peu repris ses droits, les oiseaux avaient profité du silence pour s'installer, l'herbe poussait un peu plus que d'habitude. Et c'est justement sur la piste qui sera utilisée dès demain matin que Michel Landel, responsable de l'exploitation à Orly au sein du groupe ADP, a exprimé sa satisfaction de voir à nouveau des avions, même si ce sera forcément différent d'un début d'été classique.
D'habitude, on a en temps normal 600 mouvements par jour et 90 000 passagers. Ce sera une reprise extrêmement progressive. ça représente moins de 10% du trafic, hein, ce premier jour, mais néanmoins une reprise. Donc c'est un moment important pour toute la communauté de Paris-Orly.
Quelques boutiques se préparent également à accueillir à nouveau des passagers, mais là aussi en s'adaptant à cette reprise progressive avec une soixantaine de salariés contre 400 en temps normal. Premier départ donc demain 6h, le début d'un été pas comme les autres à Orly, qui par exemple ne reverra pas d'avion Air France avant fin août, et avec bien sûr un protocole sanitaire inédit, gel, marquage au sol, et puis présence de caméras thermiques au niveau des arrivées.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1, 74 vols prévus demain, ça reste quand même quasiment 10 fois moins qu'en temps normal.
Des avions qui décollent vers l'Europe, mais alors attention, hein, l'OMS s'inquiète d'un rebond de l'épidémie sur le continent.
Oui, c'est une mise en garde adressée aujourd'hui aux Européens. Le nombre de cas recensés est reparti à la hausse ces deux dernières semaines à l'échelle du continent. Mais l'inquiétude est encore bien plus forte aux États-Unis. Situation alarmante, en particulier dans les États du Sud. Xavier Yvon, vous êtes notre correspondant. Ce soir, le Texas stoppe son processus de déconfinement.
Exactement, c'est le gouverneur du Texas qui vient de l'annoncer. Le grand État du Sud avait été l'un des premiers à rouvrir son économie. Trop vite, trop tôt, le Texas est désormais l'un des nouveaux points chauds de la pandémie. La courbe des contaminations et des hospitalisations monte en flèche, comme d'ailleurs dans la plupart des États du Sud, en Floride notamment. À Miami, le maire a imposé cette semaine le port du masque en public. Les cas de coronavirus augmentent en tout dans 29 États, au point qu'on a battu un record hier. Jamais les États-Unis n'avaient enregistré autant de nouvelles infections en une journée, 37 000. La catastrophe sanitaire se profile et elle pourrait être pire qu'à New York, où le docteur Julien Cavanna a affronté l'épidémie dans un grand hôpital public. Il explique les différences.
C'est inquiétant parce que on va avoir probablement dans un certain nombre d'endroits finalement assez ruraux une saturation du système de santé. Et c'est aussi des régions où les taux d'obésité, d'hypertension et de diabète sont élevés, ce qui rend le Covid-19 encore plus grave.
Alors, New York n'est plus l'épicentre, c'est même désormais l'État bon élève, un des seuls à maîtriser le virus. L'économie y rouvre très prudemment. Et pour éviter que cette vague du Sud ne relance l'épidémie sur la côte Est, eh bien, New York et deux États voisins ont annoncé hier une quarantaine obligatoire pour tous les Américains qui arriveraient de ces États les plus contaminés.
Xavier Yvon, correspondant Europe 1, en direct de New York. En France, c'est un changement net dans la politique des tests qui a été annoncé aujourd'hui. Le gouvernement va élargir sa politique de dépistage pour tenter d'identifier, de traquer des malades qui n'auraient pas de symptômes. Une trentaine de communes d'Île-de-France vont expérimenter un dispositif. Des invitations à se faire tester seront envoyées à plus d'un million d'habitants.
L'actualité politico-judiciaire avec cette réaction ce soir de Nicolas Sarkozy sur son compte Twitter.
Et l'ancien président dénonce une accumulation de manquements et de dysfonctionnements après les révélations du journal Le Point et le tollé qu'elles ont provoqué chez les avocats. Plusieurs ténors du barreau, dont maître Éric Dupond-Moretti qu'on entendait tout à l'heure à 18h, ont vu leur relevé téléphonique épluché par des magistrats du parquet financier. Une enquête qui était destinée à traquer une éventuelle taupe qui aurait informé Nicolas Sarkozy ou son avocat Thierry Herzog du fait qu'ils étaient sur écoute à l'époque de l'enquête sur l'affaire Bettencourt.
C'est un ancien cadre de Daesh qui est devant la justice depuis ce matin, l'un des premiers Français à être parti combattre en Syrie. C'était en 2012.
Il s'appelle Tyler Villus. Il a aujourd'hui 30 ans et il comparaît devant la cour d'assises spéciale pour le terrorisme. On le soupçonne même d'avoir été proche des commanditaires des attentats du 13 novembre 2015. Salomé Legrand, vous avez suivi cette audience et c'est un djihadiste finalement plutôt bavard.
Oui, prolixe même, et qui dilue habilement ses responsabilités dans sa logorée. À l'aise, dans le box, tresse rasta et barbichette, le trentenaire originaire de Troyes raconte tout, dans le moindre détail, sauf ce qu'il a fait réellement sur place. Converti à l'islam en 2011, il assume pleinement son engagement djihadiste en Tunisie d'abord, puis contre Bachar al-Assad en Syrie ensuite, mais il devient tout d'un coup quasi pudique quand il s'agit de décrire son rôle exact. Oui, il était membre d'une katiba, un groupe de combattants, mais il ne la dirigeait pas du tout. Il était juste le représentant quand il y avait des problèmes. Quant à sa présence centrale sur une vidéo d'exécution de deux civils qui lui fait encourir la perpétuité aujourd'hui, un simple passage dans la rue comme tout le monde à la sortie de la mosquée. Tyler Villus finit par évoquer de lui-même les allégations, dit-il, de la DGSI sur ses liens avec les membres du commando du 13 novembre. Certes, il a été arrêté en Turquie alors qu'il cherchait à rentrer en Europe. Oui, il était en contact avec Abdelhamid Abaoud, mais les autres terroristes, je les ai croisés une fois, max deux. De toute façon, quand il y a eu les attaques, j'étais déjà en prison.
Salomé Legrand, depuis le palais de justice de Paris. Le laboratoire Merck, condamné pour faute par la cour d'appel de Lyon sur la nouvelle formule du Lévothyrox qui était accusé de provoquer des effets secondaires. Le laboratoire devra verser aux plaignants 1000 euros au titre du préjudice moral.
Voilà à présent une histoire pour le moins rocambolesque. Un scandale comme il en arrive dans le monde de la finance parfois. Le géant allemand des services financiers, Wirecard, 6000 salariés, a déposé le bilan aujourd'hui.
Ouais, et la raison, c'est un trou de 2 milliards d'euros dans ses comptes. Rien que ça, Clément Le Saffre, c'est l'épilogue d'une histoire assez incroyable.
Vous connaissez le proverbe, hein, plus on s'élève, plus dure sera la chute. Un peu cliché, mais il n'y a pas mieux pour décrire le scandale Wirecard. Créée en 1999, cette start-up allemande a construit son ascension en sécurisant et en assurant les paiements en ligne pour les entreprises, transactions sur lesquelles elle encaisse une commission. Dans les années 2000, elle a profité de l'essor du e-commerce pour devenir un géant mondial. 300 000 entreprises clientes et une capitalisation en bourse qui atteint début 2019 17 milliards de dollars. C'est l'équivalent de la Deutsche Bank, mais avec 15 fois moins de salariés et de chiffre d'affaires. Mais c'est là que le vent tourne, que la bulle crève. Des révélations du Financial Times font état de malversations comptables en Asie. Le cours de bourse s'effondre, les comptes sont passés au peigne fin. Le dénouement a eu lieu lundi. Wirecard a reconnu qu'une gigantesque fraude financière pouvait avoir été organisée en interne. 1,9 milliard d'euros évaporés. Le patron Marcus Brand, lui, a été arrêté et inculpé. Il a avoué avoir gonflé le bilan de l'entreprise pour, je cite, « la rendre plus attractive pour les investisseurs et les clients ». En Allemagne, cette affaire provoque un vif débat sur le contrôle très souple auquel sont soumises les entreprises technologiques comme Wirecard. Le cabinet EY, qui a audité les comptes de l'entreprise, a indiqué ce soir, voire dans ce dossier, des indices clairs pour une fraude de grande envergure avec une volonté de tromperie.
Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1.
Europe 1.
À suivre dans votre journal de 19h. Demain dans le monde, on vote en Russie. J'étais pressé, Vladimir Poutine veut s'installer jusqu'en 2036, nous dira Didier François.
Et demain en France, attention, alerte aux moustiques tigres.
Europe 1.
Sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Et lors de Demain dans le Monde, les Russes qui sont appelés aux urnes pour un référendum qui doit valider les modifications constitutionnelles voulues par Vladimir Poutine.
Bonsoir Didier François.
Bonsoir.
Bon, c'est tout simple, hein, ça lui permettrait de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036.
Oui, alors la consultation étonnante dans sa forme d'abord, puisque la date officielle de ce référendum, c'est le 1er juillet, la semaine prochaine. Mais au nom des impératifs sanitaires qu'imposerait l'épidémie de Covid-19, toujours très active en Russie, le Kremlin a décidé de ouvrir le processus électoral dès aujourd'hui. Le vote va donc durer une semaine. Il sera d'ailleurs doublé par un scrutin électronique pour s'assurer que le taux de participation ne soit pas trop ridicule. Et pour vraiment motiver les abstentionnistes, eh ben, il y aura une loterie qui permettra aux votants de gagner des bons d'achat, des smartphones, des voitures et même des appartements. C'est totalement assumé par les autorités locales.
Ah oui.
Ce vote, c'est pour approuver la réforme, mais vous avez le droit d'être contre. D'ailleurs, tous les électeurs seront retenus pour le tirage au sort de la loterie et ils pourront gagner des prix, même s'ils votent non.
Voilà, c'est formidable, mais ce n'est pas qu'anecdotique parce que, après 20 ans de règne sans partage, Vladimir Poutine brigue 12 années supplémentaires de pouvoir. Donc, s'il veut pouvoir revendiquer un minimum de légitimité, eh bien, le référendum doit absolument ressembler à un plébiscite.
Et il a tout mis, hein, toutes les choses de son côté. Hein.
Ah ça, franchement, déjà, toute campagne en faveur du non est interdite, puisque toute campagne est interdite à l'exception de la campagne officielle. Comme ça, c'est simple. Ensuite, en raison toujours du Covid, les bureaux de vote seront désinfectés toutes les 2 heures. Ce qui laissera les urnes sans assesseur pendant toute cette période. Donc, a priori, le plébiscite est assez bien engagé.
Voilà, on a bien confiance, mais on a quand même le droit de voter contre. C'est déjà pas mal. Merci Didier François.
Normalement, c'est sur le papier. Merci à vous. Demain en France, maintenant, avec vous Jean-Pierre Montanet. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir Nathalie, bonsoir Sébastien.
Ça y est, hein, premier départ en vacances, essentiellement dans l'Hexagone. Et avec ce temps chaud, il faut se méfier d'un moustique qui pourrait bien gâcher votre été, notre
oui,
été.
Oui, 58 départements en vigilance rouge, 9 en orange, bref. 65% du territoire, hein, toute la partie sud de la France, colonisée ou sur le point de l'être par ce moustique tigre, avec même un risque d'implantation désormais nationale. Bref, personne n'est vraiment à l'abri de cette bestiole, hein, installée en France depuis 2004 à la suite d'une importation de pneus. Originaire d'Asie, il fait partie des espèces les plus invasives, un vecteur de la dengue, du chikungunya ou du zika, après piqûre d'un animal ou d'un homme infecté. Ce moustique tigre attaque le jour. Les autorités sanitaires encouragent le public à signaler sa présence. Sachez pour l'identifier qu'il est de petite taille, un demi centimètre. cm, un abdomen rayé noir et blanc. Il ne fait pas zzzz, il est silencieux et peu mobile, donc facile à écraser.
Et donc, pour s'en protéger, quelle est la bonne recette?
Alors, pour ceux, Sébastien, qui possèdent un jardin, il faut vider régulièrement tous les récipients, ne pas garder de vieux pneus où l'eau peut s'accumuler, car c'est dans ces réservoirs qu'ils prolifèrent. Il convient aussi de bien nettoyer la végétation en débroussaillant, en élaguant, une façon d'éliminer les cachettes où ils pourraient se reposer. L'objectif est de le rendre plus vulnérable. À titre préventif, pour éviter les piqûres, hein, et pas seulement à la tombée de la nuit comme pour le moustique du palu, portez des vêtements longs, équipez-vous en moustiquaire et bien sûr, utilisez des répulsifs. Passons sur les astuces de grand-mère à base de citronnelle pour les neutraliser, mais un mot quand même sur ce piège 100% naturel mis au point par la société Kayar Biogens. Après 15 ans de recherche en labo, en reproduisant l'odeur humaine, il attire le moustique, puis de façon mécanique le capture en se refermant sur lui. Une étude officielle en Italie a démontré son efficacité.
Merci pour vos conseils, hein, pour l'identifier, pour éviter d'être piqué. Merci Jean-Pierre Montané, oui, ça vous le faites très bien. À demain Jean-Pierre.
Un peu de musique pour finir, c'est le retour de Julien Doré, de retour avec un nouveau titre, La Fièvre.
Le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres. Où était l'ostéo, caché dans son dos, attendant.
Julien Doré, donc, qui nous revient et qui nous met la fièvre.
La fièvre, voilà, petit avant-goût avant un cinquième album qui est prévu pour le chanteur dans les mois
années,
qui
hein,
viennent.
Ouais, qui
alors, il y a une petite vidéo avec, il est adossé à une voiture avec à la place de sa tête un globe terrestre. Voilà, titre engagé donc sur le réchauffement climatique.
Ouais, après 2 ans d'absence, donc le retour de Julien Doré. Merci beaucoup Sébastien, de Nouvelles Infos à 19h30. Anissa, des orages demain.
Oui, grande prudence, effectivement. Toujours une atmosphère très lourde, de la chaleur qui persiste demain. Et puis, vous le disiez, Nathalie, des orages. Alors, il faut savoir que demain matin, nous aurons une accalmie, parce que nous avons déjà des orages qui éclatent ce soir et cette nuit. Demain matin, ça va se calmer avec un ciel qui sera bien plus nuageux sur l'ensemble du pays. Et alors, demain après-midi, de nouveaux orages violents éclatent. Avec une forte activité électrique, avec des pluies soutenues localement. Et dans le sud-ouest, alors principalement sur le Gers et sur le Lot-et-Garonne, eh bien prudence demain, puisque ces orages seront accompagnés de grêles et de vents forts jusqu'à 100 km/h. Donc vraiment prudence dans tous ces secteurs. Et puis les orages, ils vont se disperser partout dans la France, samedi et dimanche. Donc on va avoir un week-end très agité. Les températures, 14 à 20 degrés demain matin. C'est toujours chaud, au-dessus des normales de saison. Et puis dans l'après-midi, il fait toujours chaud dans la moitié sud, avec 34 à Lyon, 32 à Bourg-en-Bresse, 30 à Nancy et Clermont-Ferrand, 29 à Marseille, à Paris, à Lille, à Belfort, 28 à Saint-Étienne, 26 à Nantes. Et c'est beaucoup plus respirable sur la partie ouest du pays, avec 23 à La Rochelle, 22 à Quimper et Lorient et 21 à Brest. Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy, votre invitée.
J-3 avant le second tour des municipales. Quel enjeu pour les partis toute la semaine. Nous recevons les patrons des principaux états-majors. Et ce soir, c'est au tour de François Patriat, président du groupe La République En Marche au Sénat.
Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy, direction le deuxième tour des municipales. Vous recevez toute cette semaine les principaux leaders des partis. Ce soir, François Patriat, sénateur de la Côte d'Or et président du groupe LREM au Sénat.
Bonsoir François Patriat.
Bonsoir.
Bienvenue à mon micro sur Europe 1. J-3, la majorité présidentielle voulait acquérir un ancrage local à la faveur de ces élections. Elle a, semble-t-il, raté le coche. Défaite cuisante annoncée pour dimanche soir.
Défaite... Moi, j'aime pas la langue de bois, donc je vais vous parler à la fois simplement et avec beaucoup de lucidité. Si vous me dites que les élections de dimanche ne sont pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer il y a un an, vous avez tout à fait raison. Dans ce sens, c'est un échec. Mais dans le même temps, il faut savoir quelles sont ces élections, dans quel contexte elles se déroulent, et surtout dans quel contexte épidémiologique elles ont eu lieu, et puis les alliances qu'on a pu passer. Je pense que, d'abord, un parti qui existe depuis 3 ans n'a jamais dans ce pays obtenu d'ancrage local en moins de 8 à 10 ans. Deuxièmement, ces élections sont les élections de la stabilité. 80% des maires sont réélus. Maintenant, là où vous avez raison, c'est qu'on avait formulé des espoirs sur Paris, sur Lyon, sur Marseille éventuellement, sur d'autres villes où ces espoirs sont aujourd'hui totalement évanouis, parce que d'abord, il y a la division. La division qui est arrivée dans notre propre camp. Division à Paris, oui, on voit aujourd'hui nous amener Cédric Villani avec le score qu'il fait aujourd'hui. Division à Lyon, division aussi sur le, dans le sud, on voit bien que c'est la division qui gouverne. Mais dans le même temps, on peut déjà dire qu'aujourd'hui, nous avons 250 maires élus en marche, que dans beaucoup de communes, dimanche soir, il y aura des élus, et il y aura 10 000 élus en France, il y aura 10 000 élus en marche en France, dimanche soir. Je vous rappelle que les Républicains, aujourd'hui, ont 12 000 élus en quartier.
Mais c'est trop peu, vous l'avez dit, vous le concédez, vous l'avouez. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est en train d'assister, finalement, au début de la fin de la version en même temps de La République en marche avec ça ?
J'entends bien que dimanche soir, beaucoup d'élus, des gens en place, qui appartiennent soit au Parti Socialiste, soit aux Républicains, soit à une majorité, vont triompher, auront opté à triompher. D'abord, la première chose, c'est que, et parce qu'ils quoi ? Parce qu'ils souhaitent avoir une résurgence du clivage gauche-droite. Ils souhaitent cela, ils le veulent en pensant que c'est le système normal dans la Ve République et que c'est encore aujourd'hui au bout du temps. Or, nous avons pensé avec Emmanuel Macron qu'il fallait dépasser les clivages pour pouvoir faire les réformes dont ce pays a besoin. Et on sait bien ce qui se passe actuellement et qu'il faudra poursuivre à l'avenir. Donc, il y aura une forme de triomphalisme.
Parce que vous connaissez bien François Patria, vous connaissez bien Emmanuel Macron, vous êtes l'un de ses premiers soutiens, vous avez déjeuné ensemble encore en tout début de semaine.
Mardi,
voilà, j'étais presque là. Donc, qu'est-ce qu'il en dit, Emmanuel Macron ? Qu'est-ce qu'il vous dit sur ces municipales et sur, finalement, cet échec du « en même temps » ?
Alors, d'abord...
Quels sont ces mots ?
Je dis tout de suite que... La République en marche ne perdra pas de vie. Nous n'avions pas d'électeurs. Comme au sénatorial, nous ne pouvons, je ne dirais pas que progresser, nous pouvons commencer à nous ancrer. Avec la République en marche qui fait entre 10 et 15%, 13%, dans certaines villes plus de 20%, à Paris 17, 18, 20, peut-être, j'espère, plus pour cent, on ne peut pas espérer gagner de collectivité. Mais nous avons noué des alliances intéressantes avec des gens qui partagent en même temps.
Avec la droite,
la gauche,
avec la droite, avec la droite, François Patria,
avec la gauche,
Patria,
avec la
à Clermont-Ferrand, à Bordeaux, à Strasbourg, on peut pas nier ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi que il y a une fragilité de la Macronie, que si vous faites des alliances avec la droite, on est dans le conservatisme sans complexe.
Alors, je reviens aux alliances. La commission d'investiture présidée par Alain Richard a fait 2/3 d'alliances avec la droite, 1/3 d'alliances avec la gauche, parce que souvent la gauche a refusé obstinément avec les Verts de faire des alliances avec nous. Ça vient du refus de la gauche d'avoir voulu faire des alliances avec
mais parce
la
que
République
la gauche,
en marche.
Parce que la gauche ne vous a pas cru, ne croit pas dans vos engagements, parce qu'on n'est plus dans le social comme l'avait promis Emmanuel Macron.
Écoutez, je voudrais que vous regardiez l'actualité et les déclarations d'Emmanuel Macron. Hier,
les déclarations, oui, mais les actes,
non, pas les actes. Quel est le gouvernement qui, depuis le début de la crise, a fait une politique autant de gauche qu'elle l'est aujourd'hui. Jamais la politique n'a été autant de gauche. Sur les salaires des enseignants, sur les salaires demain du personnel soignant, sur le chômage partiel, vous vous rendez compte que l'État vient de prendre en charge pour presque 200 milliards le chômage partiel en
situation,
France. Ce sont des mesures de gauche.
Oui, mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, François Patria. Parce que concrètement...
La pauvreté, c'est une mesure de gauche.
Oui, mais...
Les mesures de l'école sont des mesures de gauche.
Oui, mais on n'a jamais connu une telle situation. Il fallait y répondre et il fallait répondre vite pour éviter la catastrophe économique qui, de toute façon, nous pend au nez. Mais quand même, regardez, si on regarde globalement La République En Marche, ça reste un parti composé d'élus nationaux. Et au sein du gouvernement, les seuls ministres forts d'un enracinement local, ils sont issus de la droite. Donc tout converge.
Mais attendez, d'abord, et bien entendu, puisque les ministres qui étaient maires avant, ils existaient avant la création d'En Marche, avant l'élection d'Emmanuel Macron. Ils font partie de ces maires qui sont élus dans la stabilité. C'est vrai pour Darmanin, c'est vrai pour Le Cornu, c'est vrai pour d'autres, et ça va être vrai pour le Premier ministre. Ils étaient maires avant 2014. Ils sont donc dans la continuité. Ce sont des maires sortants qui sont réélus, qui sont réélus aujourd'hui. Et nous, la difficulté, c'est que, je le constate avec vous, c'est qu'à Besançon, nous avions un maire sortant, on va perdre Besançon parce que nous sommes divisés et qu'en face, l'alliance entre les Verts aujourd'hui, parce que sans doute que, ce que l'on peut voir aujourd'hui, c'est plutôt une alliance, verte avec des socialistes qui sont en train aujourd'hui de perdre leur âme en cédant à tout aux élus écologistes qui pensent que demain c'est leur avenir, alors que le Parti Socialiste va disparaître demain dans une écologie qui est beaucoup plus à gauche.
Est-ce que François Patriat, parce que vous avez vu Emmanuel Macron, vous ne voulez pas me livrer son constat sur les municipales, vous ne me direz pas ces mots, mais est-ce que quand même, parce que vous concédez effectivement qu'il y aura, un lendemain du 28 juin compliqué, est-ce que vous concédez aussi les fragilités de la Macronie, jugée clairement trop hors sol, qui n'existe finalement guère en dehors de Paris, en dehors de la capitale?
Non, si vous regardez, d'abord, le constat que vous faites, je pourrais le démentir sur le territoire de Bourgogne-Franche-Comté. Parce que si je vois à Nevers, à Mâcon, à Vesoul, à Lons-le-Saunier, sur les 8 capitales du département de la région Bourgogne-Franche-Comté, 5 ou 6 vont être demain avec une majorité dans laquelle il y aura En Marche. Donc, vous voyez, c'est pas aussi dramatique que vous dites aujourd'hui. Je veux surtout pas dire ce soir qu'on a gagné ou on va gagner. Non, je suis lucide et j'essaye. C'est difficile de s'implanter localement quand vous avez devant vous des élus sortants, départementaux, régionaux, communaux, qui sont bien implantés, qui souvent ont fait du bon travail par ailleurs. Et d'arriver pour s'implanter comme tel. Aucun parti, vous savez, je me souviens qu'en 58, l'UDR a mis 10 ans pour s'implanter. Le Parti Socialiste a mis 10 ans pour gagner des villes. On ne gagne pas les scrutins locaux en 2 ou 3 ans. Donc, c'est pas du tout ce que nous pouvions espérer. On pouvait espérer beaucoup mieux, notamment à Paris. C'est très bien. Notamment dans certaines villes. Mais nous avons bien la difficulté de l'implantation dans les scrutins et surtout dans le contexte. Avouez que le contexte de ces municipales a diminué la stabilité à cause du Covid.
Mais le premier tour, c'était avant le Covid, François Patriat. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu ce soir à mes questions sur Europe 1. Merci.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
Ah, eh bien, on va se retrouver dans un petit instant. On parle de ces salariés qui ne veulent plus retourner au bureau à partir de 19h30. Stress, perte de motivation, angoisse de la reprise physique du travail après le déconfinement. Est-ce que vous vous sentez concerné? Dans ce cas, appelez-nous au 3921, hashtag Europe 1.
Europe 1.
19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy. Avec votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
L'épidémie accélère encore aux États-Unis. Le nombre de nouvelles contaminations a été record ces dernières 24 heures. Le Texas gèle son processus de déconfinement. À l'échelle du pays, 5 à 8% des Américains ont été contaminés, estiment les autorités sanitaires. En France, l'aéroport d'Orly rouvre demain matin aux vols commerciaux. Des liaisons sont prévues vers l'Europe et vers l'outre-mer. L'Agence européenne du médicament recommande l'utilisation du Remdesivir, un antiviral déjà utilisé dans la lutte contre Ebola. Le traitement est recommandé pour les cas graves. Une étude a montré qu'il accélérait le rétablissement de ces patients. À retenir aussi ce soir, Nicolas Sarkozy qui dénonce une accumulation de dysfonctionnements après les révélations du journal Le Point sur cette enquête menée par le parquet financier sur plusieurs grands avocats. Enquête liée à l'affaire des écoutes visant l'ancien président. La baisse trompe-l'œil du chômage au mois de mai, moins 3%, chiffre Pôle emploi qui s'explique par le retour en nombre vers l'activité partielle. Et puis Google qui change de politique sur nos données personnelles. Désormais, les traces que nous laissons, notre historique de recherche, nos trajets effectués seront effacés de ces serveurs automatiquement après 18 mois.
Merci Sébastien Krebs. À demain 18h. Anissa. Oui, le ciel se couvre véritablement là.
Ah, on va vraiment sentir la différence demain. Alors, on va pas sentir la différence au niveau température. Gardez vos habits d'été parce que demain, les températures sont toujours très élevées et on a toujours cette atmosphère très lourde en France. Mais on va sentir la différence quand on va regarder le ciel qui sera bien couvert, bien plus gris sur l'ensemble du pays. Seulement sur le bord de la Méditerranée, la journée sera ensoleillée. Partout ailleurs, des nuages le matin et alors dans l'après-midi, les orages qui envahissent tout le pays avec des orages violents sur le sud-ouest demain après-midi, accompagnés de grêle, les températures 20 à 34 degrés demain après-midi.
Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Et jusqu'à 20h ce soir, focus sur un des effets du déconfinement, la peur de retourner au bureau. Ce n'est pas anecdotique, stress, perte de motivation, angoisse. On en parle ce soir, Nathalie, avec vos invités et avec vous aussi en direct. Si vous avez ce sentiment, eh bien venez témoigner 3921 et hashtag Europe 1 sur les réseaux sociaux.
Bonsoir mesdames, en studio nous avons ce soir à nos côtés Laurence Breton-Cuigny, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Vice-présidente de l'ANDRH, Association Nationale des DRH. Cécile Dagrena est avec nous également, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Médecin du travail, dans un service inter-entreprise, précisément à Paris. Et puis par téléphone en ligne, Christophe Nguyen, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir, merci.
Psychologue du travail et président cofondateur d'Empreinte Humaine. Merci à tous de nous accompagner ce soir. L'engouement pour le télétravail, il progresse, on l'a vu. Les salariés souhaitent que ce mode d'organisation devienne pérenne, alors que ça y est, hein, le déconfinement a été validé avec le protocole sanitaire allégé depuis hier, donc retour en entreprise massif. Comment vous observez, Laurence Breton-Cuigny, là, cette période et ce qui est en train de se jouer, peut-être parce qu'il y a vraiment cette tendance, en tout cas cette envie, semble-t-il.
Oui, c'est vrai qu'on attendait ce protocole depuis un moment qui nous permet de tous revenir dans l'entreprise. Et puis en même temps, on sait bien que les personnes ont pris une habitude de télétravailler, il faudra en tenir compte. Hein. Nous, on a fait une enquête au niveau de la NDRH qui prouve l'intérêt. Et puis aussi, pour nous, DRH, il nous faut repenser ces organisations du travail. Mais aujourd'hui, on va dire
on appelle les salariés à revenir et
tout
avec
à fait.
Élan.
Oui, tout à fait.
Céline Dagrenat, on a eu toutes sortes, pendant ce confinement, d'interlocuteurs, nous, sur Europe 1, avec des parents, par exemple, qui faisaient les devoirs à la maison et qui donc étaient un peu en surchauffe. Mais aussi, certains qui nous disaient que le télétravail, ça avait un peu sauvé leur vie, qui se retrouvaient dans quelque chose de différent, de salvateur. Aujourd'hui, quand on regarde, on est plutôt dans cette tendance-là qui émerge.
Alors moi, j'ai constaté exactement ce que vous venez de dire. Ah ouais. J'ai eu deux types de personnes, en fait, certaines qui ont très bien vécu le confinement parce qu'elles étaient en famille. Finalement, elles ont pu gagner du temps, redécouvrir un peu des choses qu'elles avaient oubliées. Et de l'autre côté, je pense en particulier à une salariée que j'avais vue en consultation qui m'a dit qu'elle vivait seule avec ses deux enfants, que son enfant était en échec scolaire et que la maîtresse le savait, mais qu'elle ne pouvait pas s'occuper de son enfant parce que fallait qu'elle fasse son activité professionnelle.
Bah oui. Évidemment, l'ensemble des activités, ce qui demande évidemment du temps et de la concentration. Christophe Nguyen, psychologue du travail, vous avez mené, vous avez observé sans doute comme moi une enquête récente après le confinement. Un salarié sur deux a peur de revenir physiquement au travail, source de stress émotionnel, de détresse. Il y a vraiment cette difficulté qui s'est traduite, qu'on a verbalisé, que les salariés ont verbalisé auprès de vous.
Oui, tout à fait. Alors, on a mesuré avec une enquête, l'impact psychologique que pouvaient avoir les effets du confinement, de cette crise sanitaire, avant le déconfinement et après. Et ce qu'on a observé, et ça rejoint tout un tas d'études internationales sur ces effets-là, que finalement, la détresse psychologique reste très élevée. Mmh. Et finalement, cette peur exprimée par plus d'un salarié sur deux n'est aussi qu'une manifestation encore de cette détresse psychologique encore pesante. Hein.
Cette détresse psychologique, quand vous en parlez, on met quoi derrière, concrètement ?
Alors derrière, en fait, la détresse psychologique regroupe, si vous voulez, des notions à la fois de dépression, des symptômes également d'épuisement. Mmh. Et ce qu'évoquent aussi les salariés qu'on accompagne, on a fait plus de 5000 formations avec auprès de plus de 5000 personnes, ils nous évoquent effectivement cette fatigue qui pèse, cette gestion de crise qui perdure, et effectivement cette perception, vous en parlez aussi, du télétravail qui était finalement mise en place comme une mesure un peu barrière et qui a permis aussi de redécouvrir beaucoup de choses, quelque part aussi de résilier cette situation, mais aussi moi je prête, on va dire, une certaine attention sur le fait que le télétravail n'est pas à romantiser.
Ouais. Hein.
Il y a énormément d'avantages, de bénéfices, mais il peut y avoir aussi des difficultés, et qu'il est très important de recréer du collectif qui est très salvateur pour la question de la santé psychologique des personnes.
Bien sûr, on va y revenir justement. Peut-être que la formule aujourd'hui, et c'est ce qu'on entend poindre un peu partout, Laurence Breton-Cuigny et Céline Dagrenat, c'est peut-être cette alternance des salariés qui retournent au bureau une à deux fois par semaine, d'autres semaines un peu plus, d'autres semaines un peu moins. Est-ce que vous, à la NDRH, ça c'est quelque chose que vous validez et que vous êtes sur le point d'adopter, ou en tout cas avancer vers ça ?
Alors, il faut prêter attention que tous les métiers ne sont pas éligibles d'une part au télétravail, ça c'est le premier point, et En fait, c'était un télétravail, on va dire, en mode dégradé. On l'a bien dit, il y avait les enfants, des conditions de travail. Nous, finalement, les études prouvent l'intérêt à 1 à 2 jours maximum. Parce que si, il faut prêter attention, parce que si votre métier peut être télétravaillé à long terme, on peut se poser aussi la question de la localisation de l'activité professionnelle. Et puis, on a besoin des liens sociaux. Donc, une journée à 2 jours maximum est vraiment les éléments les plus intéressants, en tout cas en matière de télétravail.
Ouais, c'est votre maximum. On entend bien. On va évidemment vous demander votre avis à vous, Céline Dagrena, dans une petite seconde. On se retrouve pour parler du bureau, du retour au bureau, alors que l'engouement pour le télétravail progresse, c'est sur Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy et vos invités. Nathalie, jusqu'à 20h, on s'intéresse à ce stress post-confinement. Le retour au travail, vous avez peur, vous êtes stressé, vous manquez de motivation, venez nous le dire au 39-21.
Et Jeanne ou Jane est avec nous en ligne depuis Paris. Bonsoir à vous, bienvenue.
Bonsoir, merci.
Alors, vous êtes de retour au travail depuis peu de temps, depuis 2 semaines hein, précisément. Comment vous le vivez ?
En fait, je vis plutôt bien parce que en fait, je travaille de la maison, donc je reçois de nouveau mes clients et ça se passe relativement bien. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de problèmes de reprendre. Et c'est vrai que je suis plutôt tranquille dans le sens que j'ai déjà eu le virus, donc je suis plutôt sereine en fait.
D'accord. Et du coup, vous avez pu à la fois, donc là, vous reprenez vraiment l'activité de chez vous, c'est ça ?
Oui, en fait, je travaille de chez moi et je reçois mes clients de chez moi.
D'accord.
Donc, je suis dans notre position.
Donc, finalement, il n'y a pas de changement à proprement parler ?
Non, il n'y a pas trop de changement. C'est juste qu'il y a une reprise, en fait,
de l'activité.
Je peux de nouveau reprendre, etc. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est plutôt... Et puis plutôt sereinement, parce que je suis déjà immunisée. Mmh. Donc, ça se passe relativement bien.
D'accord. Et vous faites cette expérience de vie du télétravail depuis longtemps ?
Oui, depuis 10 ans, enfin une dizaine d'années. Je travaille pour les tribunaux.
Ah oui. Et donc, à aucun moment, vous avez eu envie d'être en entreprise ? Ou d'avoir en tout cas...
Non, pas spécialement, ouais. Parce que ça se passe bien. Et c'est vrai que je me déplace de temps en temps pour faire un peu d'entrepreneuriat. Ouais. Donc l'équilibre, elle est là.
Merci beaucoup, Jane, de nous avoir appelé ce soir sur Europe 1. Docteur Céline Dagrena, on voit qu'il y a, enfin, c'est ce qu'on se disait avec Laurence Breton juste avant la pause, il y a cette notion de alternance qui tend à pas mal séduire. Un jour au travail, un jour à la maison, enfin bref, 2 jours sur zone en moyenne, c'est salutaire. Ça peut être une version assez idéale en tout cas.
Alors oui, tout à fait, comme on parlait tout à l'heure de l'importance du collectif de travail, donc le fait de revenir au moins partiellement en présentiel, ça permet d'avoir ces contacts avec justement toute l'équipe. Mmh. Ça me faisait penser en fait à ce que j'ai certains collaborateurs qui me disaient pendant le confinement qu'ils avaient... pallier pas mal à ce manque de communication justement avec leurs équipes en organisant des sortes de cafés fictifs le matin avec les nouveaux moyens de communication par téléphone, par internet. Et du coup, en phase de transition, ça leur avait permis de finalement pas perdre le lien et d'essayer. Alors bien sûr, c'est pas du tout pareil qu'en présentiel, mais ils gardaient quand même, on va dire, les liens sociaux avec leur équipe et les échanges, des points réguliers avec leur manager et le reste de l'équipe.
Est-ce que vous avez eu, vous, depuis le déconfinement et le retour en présentiel, est-ce que vous avez observé des cas de phobie sociale avec des gens qui ont littéralement sauté le pas et qui ont décidé soit de changer de métier, soit d'arrêter parce qu'ils veulent plus retourner en entreprise.
Alors, j'ai pas trop vu ça, enfin des changements
pas
comme
aussi
ça,
radical.
Voilà, pas de façon aussi radicale.
Mais qui mettent tout en œuvre pour en tout cas rester en télétravail.
Oui, ce que j'ai vu pas mal, c'est des gens qui avaient déjà des petites difficultés avant, et en fait, le fait d'avoir été confinés pendant 3 mois rend leur retour encore plus difficile puisqu'ils avaient déjà des difficultés relationnelles avec certaines personnes de leur équipe. Ouais. Et après une grande pause comme ça, guillemets, si je puis dire, le retour est très difficile. Et ce que je vois sinon aussi pas mal, puisque je suis à Paris, les gens ont peur de reprendre les transports en commun. Soit parce qu'ils sont vulnérables, soit parce qu'ils ont des personnes qui sont à risque. Donc là, pour l'instant, on a encore des moyens de pallier à ça, puisque jusqu'au 31 août, on peut encore avoir des arrêts de travail ou des certificats d'isolement. Mais bon, j'entends pas mal de ce genre de...
Ouais. Prendre les transports en commun,
voilà, ouais.
Évidemment, la proximité, etc. Christophe Nguyen, vous qui êtes psychologue du travail, il y a évidemment ceux qui ont pu télétravailler pendant cette période du confinement et qui peuvent encore le poursuivre. Et puis, il y a ceux pour qui c'est totalement impossible, en fonction des professions. Est-ce que ça génère, du coup, une sorte de sentiment d'inéquité ?
Oui, très très fortement. Hein. On voit que on parlait du rôle du collectif et de son pouvoir finalement pour protéger la santé mentale et du besoin des personnes aussi de retrouver ce lien. Et ce que disent les personnes qu'on a sondées, c'est que pour 40%, il y a des nouvelles tensions aussi qui apparaissent dans l'entreprise du fait aussi de ces vécus très différents. Donc entre ceux qui étaient exposés au Covid parce qu'ils étaient encore sur le terrain pendant cette période-là, les télétravailleurs qui pour certains ont été perçus comme étant plutôt protégés, ce qui n'est pas forcément une réalité, hein, et entre ceux qui ont été mis aussi en chômage partiel et qui se sont sentis peut-être inutiles, exclus ou qui ont peut-être perçu une plus grande menace hein, sur leur emploi et fragilisés d'un point de vue, j'ai envie de dire, de la détresse économique. Et vis-à-vis de ça, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des vécus très différents entre ceux qui l'ont bien vécu, le confinement, qui peuvent peut-être avoir tendance, malheureusement, à banaliser d'autres vécus. Et ça, c'est vraiment un frein pour la recréation de ce collectif-là. Et qui peut être un frein aussi au retour à l'emploi, parce que c'est vrai, hein, je rejoins ce que disait le médecin du travail, c'est que certaines personnes en télétravail se sont senties protégées parce qu'elles se sont dit « j'ai plus mon manager qui était harassant avec moi » ou « j'ai plus les collègues avec qui j'avais des difficultés » et que là, qui se retrouvent à sentir des nouvelles tensions apparaître. Donc, c'est très important que les entreprises mettent en œuvre des actions, parce que là, aujourd'hui, elles sont en mode réactif hein, vis-à-vis des nouveaux protocoles qui arrivent, aux nouvelles réorganisations, d'être très attentives sur l'accompagnement humain de ces changements-là.
Merci à vous. On va se retrouver dans un petit instant. On va continuer à parler hein, de ce retour au travail qui perturbe pas mal d'entre nous avec vous dans ce studio. Et c'est jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy et ses invités. Jusqu'à 20h ce soir, on parle des effets du déconfinement et notamment la peur de retourner au bureau. Si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à venir nous rejoindre au 3921 ou sur Twitter, hashtag Europe 1.
Et on est avec Christelle. Bonsoir à vous, vous êtes en région parisienne. Merci d'être avec nous.
Merci.
Vous êtes retournée, ça y est, sur votre lieu de travail, vous ?
Oui, pour l'instant, c'est un jour par semaine et le reste du temps en télétravail avec des consignes de sécurité sur site qui sont tout à fait gérables, notamment parce que là, on n'est pas en open space et que comme on a des bureaux individuels, c'est plus facile de travailler dans des conditions, on va dire, normales.
Sécurisées, ouais,
et puis normales. Voilà. Et moi, j'en suis très satisfaite. Autant je n'ai aucun problème pour télétravailler parce que mon entreprise donne des conditions de télétravail favorables en termes d'équipement, etc. Mais par contre, reprendre un rythme, recouper entre la vie personnelle et la vie professionnelle, avoir ces temps de trajet qui peuvent des fois être casse-pieds, mais qui sont pas mal aussi pour faire des césures entre les deux mondes, c'est quand même pas mal.
Votre format idéal, d'un mot, c'est continuer dans ce format-là, c'est-à-dire un ou deux jours en présentiel et le reste en télétravail ou pas nécessairement ?
Oui, enfin, je suis favorable au télétravail. J'en faisais déjà avant le confinement quelques jours par mois. Et ce format-là permet quand même une adéquation vie personnelle, vie professionnelle intéressante. Ouais. Par contre, c'est pas forcément facile pour tout le monde.
Merci beaucoup. Merci Christelle de nous avoir contacté sur Europe 1. Laurent est dans les Hauts-de-France. Bonsoir Laurent. Vous êtes grossiste en boissons, notamment pour les restaurants. Vous avez plusieurs salariés, une centaine même. Il faut être sur zone parce que il faut participer à la reprise.
Oui, tout à fait. Ben, nous, on a fait reprendre quasiment toutes les personnes en physique, ce qui est une bonne chose. Tout le monde est content de retrouver ses collègues. Et nous, aujourd'hui, en tant que professionnels de la boisson, on souhaiterait que les grosses entreprises ayant des salariés sur plateau, notamment, refassent travailler leur personnel en physique pour faire tourner un peu le restaurant le midi, qui souffre énormément aujourd'hui du fait du manque de clients.
Tout le monde était partant ?
Tout le monde était partant. On a une personne qui m'a demandé de conserver encore un peu de télétravail pour avoir des problématiques de garde d'enfants. Mais sinon, oui, tout le monde était content de revenir en physique.
Merci beaucoup, Laurent, d'être intervenu ce soir sur Europe 1. Dites-moi, Laurence Breton-Cueni, on entend quand même qu'il y a ce mouvement, qu'il y a cette volonté de rester aussi chez soi. On l'entendait, Christelle disait, on peut concilier comme ça plus facilement la vie à la maison. Ouais, c'est vrai, on se dit, on a goûté à quelque chose, pourquoi revenir en arrière ? Est-ce que nos dirigeants en entreprise nous font suffisamment confiance finalement pour nous laisser en télétravail ? Ou pas ?
Alors, c'est pas une question de confiance. J'ai bien aimé le témoignage. On dit toujours qu'en fait, une entreprise, c'est tout un écosystème autour. Alors, je dis pas un jour de télétravail par semaine. Mmh. Ça peut être une bonne solution. Mais pour le reste, on a énormément de personnes qui comptent sur nous. Rappelez-vous, dans les sites, on a externalisé le ménage, la restauration. Et si nous ne revenons pas travailler sur site, eh bien, ces personnes restent en chômage partiel. Aujourd'hui, l'écosystème est ainsi fait. Donc, ce qui est compliqué, je pense, pour les individus, c'est penser global. Aujourd'hui, les individus pensent pour eux, pour leur confort personnel, pas forcément pour l'entreprise. C'est un petit peu la différence entre j'ai une activité professionnelle ou j'ai une occupation. Mmh. Hein, si tout le monde reste chez soi, en fait, l'activité économique ne va pas redémarrer. Il faut qu'on arrive à la booster. Et pour la booster, le protocole a raison, il faut que l'on revienne travailler. Et puis c'est bien d'être ensemble. On a plein de choses intéressantes et on peut effectivement quand même faire un équilibre vie privée, vie professionnelle. Il faut se réhabituer et votre...
Il faut, dites-vous. Hein. Il faut.
En fait, dans l'entreprise, nous, en tant que DRH, on le fait tout. C'est la montée en charge progressive. On commence un jour, deux jours, trois jours. Et puis là, avec le protocole, on peut revenir pratiquement tous les jours. Et c'est ça. Il faut se réhabituer, reprendre progressivement l'activité et prendre goût.
Céline Agrenat, là-dessus, parce qu'il y a une forme d'injonction.
C'est vrai que je trouve ça tout à fait juste ce que vous avez dit. On peut avoir tendance à oublier un peu que le fonctionnement d'une entreprise, ce n'est pas juste un poste de travail individuel. Par contre, pour revenir un petit peu sur les difficultés du télétravail, je voulais revenir un petit peu là-dessus, parce que ça me faisait penser que j'ai vu pas mal aussi de gens qui ont été embauchés pendant cette période de confinement, sur des postes qui sont télétravaillables. Mais dans ce qu'il me disait, c'était très compliqué parce qu'en fait, il connaissait pas les gens.
Et oui, bah là, c'est la situation.
Du coup, il se faisait pas solliciter et il y a eu aussi des gens qui ont forcément, ça a été compliqué pour eux de prendre leur marque sur leur poste de travail. Donc,
là, évidemment, dans ce sens, situation quand même effectivement particulièrement singulière quand on est dans ce cas-là. Est-ce que Christophe Nguyen est toujours en ligne avec nous? D'un mot, Christophe Nguyen, il y a quand même effectivement une chose qu'on peut mentionner, c'est que l'hyperconnexion, la surcharge, évidemment, pendant ce confinement, travailler, c'est aussi de nature à faire un peu exploser hein, les cerveaux, quoi, les esprits.
Oui, tout à fait. On voit aussi que 4 quand même télétravailleurs sur 10 se sont sentis isolés à cause du télétravail hein, et pas forcément à cause du confinement. Et on peut avoir ce ressenti paradoxal, on le voit bien, entre je l'ai bien vécu, je l'ai pas bien vécu, je veux retourner au travail, je retrouve du collectif. On voit bien qu'il y a une grande diversité et là, c'est tout l'enjeu de pouvoir recréer cette identité commune et surtout de prendre en compte ce qui se passe finalement dans la tête des gens, comme vous le disiez, hein, cette crise sanitaire est aussi une crise psychologique et qui amène les personnes à se re-questionner sur le sens aussi qu'elles donnent à leur travail et à leur moteur, si vous voulez. Qu'est-ce qui fait que je vais vouloir retourner au travail? Qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir aussi abandonner ce qui m'a permis aussi de trouver un équilibre vis-à-vis de mon télétravail aujourd'hui? Et c'est un vrai enjeu, je pense, de prendre en compte l'état psychologique des personnes et des mouvements qui arrivent.
Merci beaucoup. Aujourd'hui. Merci Christophe Nguyen, merci à vous Céline Dagrenat, Laurence Breton, QNI d'être venue ce soir. Dans un petit instant, c'est musique, c'est après 20h et c'est comme chaque soir, Émilie Mazoyer avec son invité Thomas Dutronc pour son nouvel album Frenchie et puis le live George Michael ce soir. Collector. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. 18h-20h, votre grand journal du soir qui revient demain en direct pour écouter ensemble Le Monde Changé. Très belle soirée avec nous.
C'était Nathalie Lévy sur Europe 1.
Europe 1.